Bienvenue en Zone Neutre, épisode du 11 février 2021. Petite musique d'intro différente ce soir. Ça me tentait d'essayer ça. On va l'enlever tout de suite. Moi, je l'entends. Vous l'entendez probablement plus, mais moi, je l'entendais encore. Fait que... Hey, 11 février 2021, en fait. Bienvenue à En Zone Neutre. J'essaye de quoi de spécial ce soir, une nouvelle plateforme. J'étais avec StreamYard jusqu'à tout récemment, puis j'ai découvert ce streaming service qui s'appelle Melon App, qui est développé par OBS Studio, en fait Streamlabs. Streamlabs c'est développé par OBS. Là. OBS, c'est probablement le logiciel le plus utilisé en podcast qui n'a pas d'invité virtuel. Là, donc, parce que c'est pas user-friendly pour faire le type de podcast que je fais. Donc, j'étais vraiment content de découvrir qu'il avait travaillé sur une application ou sur un truc permettant d'avoir des invités. Donc, j'ai dit, je vais essayer ça. Puis là, je suis tombé en amour un peu avec la plateforme. Il y a quelques trucs qui sont pas pareils comme ce que j'utilisais avant, mais en gros, j'haïs pas ça. Une belle plateforme. Puis, j'ai fait un test de son avec les boys que je vais recevoir dans la dernière partie d'émission, là, les boys de foot. On va parler de ce qui s'est passé au Super Bowl. Puis, ça fonctionnait pas. Puis là, j'étais à 15 minutes de lancer le live. Puis, ça fonctionnait pas en tout. J'entendais pas les invités, mais finalement, c'était une problématique au niveau du choix du son comme tel dans le logiciel. Et puis là, je capotais un peu, puis je me disais, là, tabarouette, j'ai des invités au début du show, ça va pas bien. Donc, finalement, on a réglé ça. Fait que merci les boys, merci Renaud Bourbonnais, Shane Harper de vous être connectés plus tôt avec moi pour qu'on vérifie ça. Encore une fois cette semaine, un gros merci à Éric et Mélanie de Construction Myrick qui me permettent d'être dans leur bureau. Eux autres appellent ça des bureaux, moi j'appelle ça un studio, fait que c'est ça. Après 4h30, 5h, là, quand les bureaux ferment ici, ça devient un studio de podcast. Donc, merci encore une fois, Construction Myrick, des gens super cool, puis des amis. Donc, à chaque semaine. Puis en plus, c'est ça, non, c'est l'autre bord, tabarouette. Myrick, ils ont laissé un panneau, puis je l'ai mis en arrière pour qu'on le voit. Donc, et cette superbe peinture aussi que j'essaie toujours de dissimuler quelque part dans le bureau. Puis finalement, je me suis dit, je vais le mettre en background cette semaine. Fait que je sais pas c'est qui a peint ça, mais c'est très joli. Ça me fait un élément de décor, parce que sinon j'ai pas de décor là. C'est un mur blanc derrière. Fait que ça fait ça. Je vais essayer de pas trop parler longtemps parce que je me suis fait reprocher ça. Parce que oui, qui dit podcast dit recevoir des commentaires un petit peu plates des fois. Donc je me suis fait dire que j'étais plate au début des shows, puis que c'était beaucoup mieux quand je commençais à recevoir des invités. Fait que je sais pas si c'est parce que moi je suis à chier quand je suis tout seul ou juste je suis à chier tout le temps, mais les invités me font paraître comme il faut. Bref, en tout cas, envoyez-nous des commentaires. Je veux vous entendre savoir si je suis à chier tout le temps ou si je suis quand même pas pire en entrevue qui fait que le restant du show est pas pire. Merci aussi aux Brasses Camarades. Chaque semaine, je bois une petite bière. Là, cette semaine, je la présenterai pas tout de suite. Je vais la présenter avec mon premier invité qui lui aussi, il s'est pris une petite bière, donc on va boire notre petite bière, on va la présenter ensemble puis tout ça. Donc c'est ça. Fait que je la garde pour tantôt. On a des invités super cool aujourd'hui. Je dis tout le temps « on », mais c'est « j'ai des invités super cool ». Là, je suis tout seul. Donc, j'ai des invités vraiment cool. On va recevoir en fin de show, comme j'ai dit tantôt, Renaud Bourbonnais d'Attitude Football et Shane Harper de Trop fort pour la Ligue. On va revenir sur le Super Bowl. On a fait déjà deux émissions avant le Super Bowl pour les playoffs, qu'est-ce qui se passait et tout ça. On va enchaîner avec ce qui s'est passé. On va parler un petit peu du résultat du match, qu'est-ce qui s'en vient. vient pour la saison morte au foot. On va parler de la parade des Buccaneers de Tampa Bay avec Tom Brady un peu chaud d'ail. C'est drôle, moi j'ai trouvé bien plus sympathique chaud d'ail que quand il est sur le terrain avec sa face de bœuf. Donc on va sûrement parler avec Renaud Bourbonnais, Attitude Football qui nous sort tout le temps les petits potins aussi avec les nouvelles. Donc on va regarder ça. En milieu d'émission, je reçois Vincent Ouellet des Trois Maisons qui va venir nous parler un petit peu de sa chaîne YouTube, une nouveauté pour lui. Il nous vulgarise des trucs, donc super intéressant. J'ai hâte d'y jaser, j'ai hâte de voir d'où ça vient cette idée-là, mais l'idée est cool. Il y a des trucs, que ce soit politique, que ce soit, en ce moment, tout ce qui se passe au niveau des complotistes ou des covidios, puis tout ça, il vulgarise certains aspects, puis c'est vraiment cool. Puis c'est un gars qui suit beaucoup l'actualité, donc c'est assez intéressant de suivre ce qu'il a à dire sur sa chaîne YouTube. Puis, c'est un enseignant aussi, donc il est habitué de montrer des choses, d'enseigner des choses. Parlant d'enseignants, ben mon premier invité, c'est un enseignant, mais c'est aussi le directeur d'événements du Marathon canadien de ski de fond. Puis là, je suis assez content parce que j'ai pas moppé la présentation. Ce que je fais toujours avec les invités habituellement, je réussis toujours à me tromper dans leur titre puis tout ça. Mais là, j'ai réussi, je pense. En tout cas, je l'amène avec moi. Il va pouvoir nous le dire si je l'ai bien présenté. Monsieur Frédéric Ménard, comment ça va, mon ami?
Hey, salut Simon, ça va super bien.
Cool. Fait que je t'ai pas. C'est correct la présentation, là? C'est directeur d'événement.
Bon, c'est pas trop massacré, là. Parfait.
Le marathon canadien de ski de fond, Fred, qui est parti samedi dernier, une édition un peu bizarre cette année. Je le sais, c'était comme un grand rassemblement. Je te voyais à chaque année travailler super fort, demander à tes amis de venir donner un coup de main pour que l'événement soit toujours un succès. Cette année, c'est pas mal différent. Comment ça a parti, là, le départ de l'événement?
Ben, c'est un grand succès là cette année là. On y va avec une formule virtuelle cette année là, bien évidemment là avec tout ce qui se déroule présentement. Quand on préparait l'événement, on préparait là depuis le mois de mars là, l'an dernier dans le fond qu'on préparait là un événement présentiel puis un événement virtuel aussi en parallèle. Puis on a pris la décision en décembre là, vraiment de juste se diriger vers le virtuel. Et puis à ce moment-là, on est dans l'inconnu là, dans l'événementiel, c'est déjà très difficile année après année là de faire nos frais, de convaincre les participants de se déplacer. Hey Simon, on peut te prendre gorgée de bière?
Ouais, ben c'est ça, j'ai oublié ça. Tu vois comment ça me stresse de te recevoir sur le podcast parce que Fred, le marathon canadien de ski de fond, c'est un événement sérieux, c'est un événement le fun, mais c'est un événement sérieux. T'es un président, t'es un directeur d'événements hors pair, puis je sais que t'es à ton affaire. Mais nous autres, on a des anecdotes ensemble. Puis là, j'ai peur que ça sorte si on prend trop un coup, mais on va boire notre bière. T'as pris une bière, tu peux nous la présenter d'ailleurs, parce que c'est une bière qui a un lien avec justement le marathon canadien.
Exactement. Écoute, moi, c'est une bière des brasseurs de Montebello. Puis je salue Alain et toute l'équipe des brasseurs. Mm-hmm. C'est la Jack Rabbit. Donc, c'est une bière quand même thématique là, pour le marathon canadien de ski. En 2016, cette année, là, c'est la 55e édition. En 2016, on fêtait notre 50e, puis on a commencé les préparatifs vers le 50e pour célébrer environ.
Ça va?
Oui, j'ai eu... et voilà, c'est bon.
J'ai eu un
switch d'écran, là. Donc, comme je disais, on a préparé là peut-être 2 ans à l'avance à essayer de trouver des idées là, novatrices pour vers le 50e. Et puis, toujours important d'impliquer là, les gens locaux, les producteurs, des choses comme ça. Et puis, on a eu un peu la brillante idée là de faire une peinture souvenir par le peintre de Montebello, Alain Lévesque, qui est surtout reconnu mondialement pour ses peintures là automobiles. J'ai la peinture...
C'est lui qui avait fait les... je pense quand on va au bistrot, c'est lui, hein, les peintures automobiles au café du bistrot et au bistrot.
Exactement, là, Pat Leblanc, qu'on salue aussi, là, un bon ami Pat, qui est un grand fan d'Alain. Là, donc, il y a beaucoup de peintures d'Alain dans ces deux restos, donc au bistrot puis au café à Saint-André. Donc, on a travaillé avec Alain pendant plusieurs mois là, pour arriver au produit final. Puis, en même temps, en parallèle, ben, je suis allé voir Alain, Alain Larivière des Brasseurs. Puis, je dis, écoute, Alain, ce serait peut-être le fun d'avoir une bière souvenir pour le 50e du marathon, tout ça. Puis, Alain, il avait déjà commencé à brasser là, la Black Pills, la Jack Rabbit, mais il n'y avait pas de nom à ce moment-là. Puis, il cherchait quelque chose de thématique. Fait que je suis arrivé juste au bon moment avec le concept, puis tout ça. Puis là, ben, après ça, nous, on a communiqué, j'ai communiqué avec la famille de Herman Jack Rabbit Johansson directement, qui on a toujours des liens avec le marathon. Sa petite fille vient à chaque année. Mais sa petite fille qui maintenant est probablement à l'âge général de tout près de 80 ans. Là. Pour avoir les droits du nom Jack Rabbit, etc. Puis étant donné que c'était associé avec le marathon, ben c'était possible. Donc, sur la bière, on retrouve là l'œuvre d'art d'Alain. Puis on a une petite mention là sur Jack Rabbit lui-même à l'arrière. Puis la bière a tellement été populaire. C'est une Black Pills, donc c'est une bière foncée, mais qui a un goût là, super doux. C'est un des bons vendeurs d'Alain. Fait qu'il a continué. Tu sais, l'idée, là, je pense, c'était de la brasser pour le 50e, puis que ça se fasse un souvenir. Puis maintenant, Alain, il a jamais arrêté de la brasser. Puis,
je pense qu'Alain est victime de son succès. Il fait la même chose pas mal avec toutes ses bières. T'sais, il en a fait une pour le carnaval de Montebello. Il est obligé de la brasser chaque année. Après ça, il en a fait une pour les 25 ans de carrière des Chiens sales. Ça a été un succès. Il est obligé de la rebrasser après. Même chose avec la Jack Rabbit. Fait que je pense que c'est bon, là, mais il est victime de son succès pour le.
Exactement. Ben, c'est bon, ça, je trouvais que cette thématique là d'avoir la Jack Rabbit ce soir, c'est une bière que j'affectionne. C'est un petit lien émotif quand même, mais c'est juste une bière que j'apprécie beaucoup. J'aime les bières fortes, j'aime les bières qui goûtent là.
La 50.
IPA, etc. Là, donc, ben, tu connais mon affection pour le houblon.
Le houblon et la 50 en général. Moi, je bois.
Oui, la 50, c'est au biberon, là.
C'est la bière de déjeuner des Ménards.
Exactement. Nous autres, on est élevés avec ça dès nos premiers jours.
C'est bon, ça. Écoute, moi, je bois. Moi, j'en ai bu pas mal des brasseurs sur le podcast, là. D'ailleurs, c'est à peu près une semaine sur deux, je te dirais. Puis des fois, j'en ai une on the side. Tu sais, j'en présente une. Puis quand j'ai fini, je bois celle des brasseurs après. Tu sais.
En hypocrite,
exactement. Moi, j'aime bien la bière blanche. Donc, j'ai une grande voyageuse de la microbrasserie Côte du Sud. Moi, mes bières sont toujours suggérées par le Brasse Camarade à Saint-André-Avelin. Je les salue d'ailleurs. Cette semaine, je suis pas allé les visiter parce que je l'avais déjà la semaine, j'ai pris la semaine passée, puis je l'ai pas bu. Donc, c'est une blanche, aucun rapport avec le ski de fond, malheureusement. J'aurais peut-être dû regarder ça, mais c'est plus une bière d'été, je dirais.
Mais il y a quand même un petit lien à faire avec le Brasse Camarade et le ski de fond.
Ouais.
Quand on veut aller faire du ski de fond à Saint-André, dans le fond, Montagne Blanche, là, la piste qui part dans le village, là, en arrière de l'ancienne auberge.
Ouais.
On peut aller pour acheter notre carte de membership, on peut aller acheter ça au Brasse Camarade. C'est que l'autre fois, moi, je suis allé faire une petite ride, je me suis rendu jusqu'à 16 jours, je suis revenu, ça donne à peu près 16 km, puis je vais aller acheter ma carte après. Fait que je vais au Brasse Camarade, jase, tout ça, je sors de là avec 175 pièces de bière, j'arrive chez nous, j'ai oublié d'acheter ma passe. En tout cas, fait que, c'est obligé de retourner, mais oui, Brasse Camarade, là, c'est un incontournable, là.
Ah, j'aime ça. Écoute, on a fait notre présentation de bière, puis on va la siroter tout au long de l'entrevue.
On va l'étirer.
Mais je vais te parler, c'est un succès sur toute la ligne quand même, même si c'est une édition virtuelle du marathon. Vous avez dépassé les 1200 inscriptions de ce que j'ai vu. Je sais pas combien vous avez finalisé au total, mais parle-nous de ça un peu. Tu sais, ça a été une campagne différente, j'imagine, pour amener les skieurs, puis les amener, en tout cas, les amener à faire le marathon, en fait. Mais ça a été un succès. Est-ce que tu t'attendais à une aussi bonne, positive réponse comme
non.
ça?
Pas vraiment, mais tu sais, on se lance là-dedans, on sait pas ça va être quoi la réponse de la communauté, on sait pas comment les gens vont réagir, vont s'adapter. Puis, tu sais, on bâtit un budget, on est un organisme à but non lucratif, on a des frais fixes annuels, tu sais, on est un événement, tu sais, on est un événement dans le monde qui font, on est un joueur majeur là, en Amérique du Nord, tu sais, on est quand même un événement qui est assez méconnu parce que on n'est pas une course, on n'est pas une compétition, tu sais, on se déroule un peu en plein milieu de nulle part. Mais on est l'événement de ce qu'ils font le plus ancien en Amérique du Nord. Cette année, comme je disais, c'est la 55e édition. tu sais, année après année, on accueille entre 1400 1600 skieurs là sur place. Principalement des gens de l'extérieur de la région, donc Montréal, Ottawa, Gatineau, Chelsea, Toronto, beaucoup du nord-est américain et puis un petit peu de l'international. Tu sais, c'est pas ça va être quoi là, puis c'est une expression qu'on a entendu souvent depuis le début de la pandémie, mais tu sais, d'écrire le manuel de vol en plein vol là. On bâtit un budget, ce qu'on voulait au départ, mais on avait certains objectifs. Un des objectifs premiers, ben c'était de permettre à l'organisme, je veux dire, de perdurer dans le temps, donc de pas faire faillite, de pas fermer ses portes, de rester vivant. Et puis un objectif aussi, c'est sûr, c'était de donner une opportunité à nos participants de vivre un événement. Et puis on savait que les gens allaient pouvoir faire du ski de fond parce que c'est en plein air, tu sais, tout ça. Mm-hmm. Fait que c'était d'offrir un offre de service, si on veut. Puis nous, le chiffre qu'on avait en tête après quelques semaines de planning, de briefing, de brainstorming, c'était à peu près 750 participants. Fait que c'était notre target. Puis là, en date de tantôt, là, on était à 1560. Donc, on a doublé notre objectif. Wow. Tu sais, comme l'année passée, on a eu en présentiel 1432 skieurs. Donc, on a dépassé notre nombre de skieurs présents l'an dernier. Tu sais, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer ça. C'est sûr que ça fait un événement qui est moins dispendieux en offrant en formule virtuelle. Il y a des gens aussi qui n'ont pas à se déplacer. C'est un événement cette année qui dure sur une période de 4 semaines. Les gens ont besoin de 4 semaines pour réaliser leur défi. Donc puis on a réduit les distances aussi. C'est un petit peu moins exigeant. Donc ça devient plus accessible. Peut-être les gens qui ont des jeunes familles qui n'ont pas besoin de se déplacer à Montebello, c'est les gens qui habitent peut-être sur à Québec ou peu importe ou à Toronto, mais ils n'ont pas besoin de se déplacer. Puis c'est quand même un événement qui est dispendieux, considérant que c'est un événement habituellement qui est sur 2 jours. Donc, si tu fais 8, 10, 12 heures d'auto ou si tu prends l'avion pour venir, ben il faut que tu prennes 3, 4, 5 jours de congé. Tu sais, ça peut représenter le même coût qu'un voyage dans le sud, dans le fond, là. Mais il y en a pour qui ces gens-là, c'est leur happening annuel, là. C'est incroyable. On a une clientèle qui est extrêmement fidèle. Puis là, je parle, t'as même pas besoin de poser de questions, tu peux boire de la bière. Moi, je peux te parler pendant 3 heures du marathon.
Non, mais j'ai une question, par exemple, puis jusqu'à quelle date tu t'es donné, par exemple, avant de dire on va le tenir de façon virtuelle, donc chaque skieur va faire sa distance où est-ce qu'il veut bien le faire. Parce que vu que c'est un événement en plein air, est-ce que tu as été tenté de le tenir quand même événementiel, présentiel, c'est-à-dire, puis d'essayer d'accommoder pour l'hébergement, tout ça? Est-ce que tu as été tenté de le faire?
Dans le fond, tu sais, si on se rappelle, là, il y a presque un an, là, je savais pas du tout ça allait ressembler à quoi là, à un moment donné. Mm-hmm. Là. Donc, on a pris des décisions clés au printemps pour être prudent financièrement. Une des décisions, puis moi le marathon pour moi c'est un emploi. Là. Je suis rémunéré, c'est un travail. Je suis le seul employé de l'organisme qui est employé à l'année, annuellement. Mais c'est pas un emploi à temps plein. Puis on a aussi une employée de bureau qui est là à temps partiel la majorité de l'année, puis un temps plein quand on est plus dans le rush de l'événement. Sinon, on a quelques sous-contractants, puis c'est des bénévoles. Puis c'est un conseil d'administration qui gère l'organisme. Donc ça, c'est des bénévoles. Puis une des décisions clés de l'organisme au printemps l'année passée, c'est que ils m'ont fait une offre de contrat pour cette année qui était réduite. Donc cette année, je suis de retour à l'enseignement à temps plein. Là. Ça faisait 8 ans moi, que j'enseignais à temps partiel. Wow. Là, je suis de retour à l'enseignement à temps plein. Donc, c'est sûr que financièrement, pour l'organisme, ben là, c'était des grosses économies de coûts par rapport à ça. Fait que dès ce moment-là, on savait qu'on pourrait pas tenir probablement un événement sur 2 jours ou à la même hauteur là, que d'habitude. Mm-hmm. Ensuite, on a travaillé à partir du mois de juillet avec la santé publique de l'Outaouais sur une formule d'une journée qu'on a tenu à aller jusqu'en décembre. Et puis même en décembre, moi j'étais confiant que je le dis encore, on aurait pu tenir un événement en présentiel à Montebello en ayant jusqu'à environ, selon nos calculs, jusqu'à à peu près 1000 personnes, puis jamais il y aurait eu plus de 250 personnes au même endroit, puis toujours une distance de 2 mètres. Un événement d'une journée où on n'offre aucun hébergement, d'habitude on offre de l'hébergement, donc une formule, tu sais, ski in, ski out. Mais pour ce faire, il aurait fallu que la région soit en zone jaune ouverte. Puis il aurait fallu que les gens des régions extérieures aussi puissent venir. Puis on a eu un très, très bon support là, du CISO de l'Outaouais, la santé publique. Mais à un moment donné, il fallait se rendre à l'évidence que ce projet-là, même s'il était viable, par les normes en place, on respectait pas ce qui était demandé. Ouais. Donc, en décembre, on a vraiment, à ce moment-là, on a tiré la plug, puis on s'est dirigé vers le virtuel. Donc là, on a, bien que le virtuel était monté, ben là, on a monté, là, on a mis en place notre plan marketing, nos inscriptions, notre site web, on a fait ça à l'intérieur d'une fenêtre d'à peu près 14 jours. Ça, pour les gens qui connaissent un peu l'événementiel, là, qui, tu sais, là, tout le monde a travaillé. On a fait du bénévolat ensemble pour les tournois d'hockey, tout ça. C'est lancer un tournoi d'hockey en bas de 10 jours, là. C'est solide, là. Tu dors pas beaucoup, puis il faut que les morceaux s'emboîtent, puis tu sais, mais c'est ça qui nous drive, là. C'est ça. Moi, j'ai des frissons, là. C'est ça, là. C'est ça qu'on aime. Ouais. Fait qu'on a livré ça, puis à ce moment-là, la réponse était super positive. Puis il y a un engouement en ce moment pour le ski de fond, pour les activités extérieures, qui est du jamais vu. Même chose pour le vélo l'été. Essaye pas de trouver un vélo de route l'année passée, au mois de juillet, il n'y en avait plus. Les ski de fond, c'est la même chose. Ça arrive, ouais. Ça part. On a beaucoup de nouveaux participants. Puis on a des participants aussi qui reviennent après quelques années là, de retraite, si on veut, au marathon. Le marathon, on a une clientèle très fidèle. On a un programme aussi de fidélisation qui est vraiment intéressant. Donc, les gens, quand ils reviennent d'année en année, ils accumulent des années, ils accumulent des nombres de sections skiées, puis il y a des catégories de prix qui sont reliées à ça. Il y a plein. Ça, c'est le principe du jeu vidéo. Là. Il y a toujours un autre niveau à atteindre. Donc, puis le fait que ça soit un événement qui est tellement convivial où le côté humain et la camaraderie est vraiment mis de l'avant, étant donné qu'on n'est pas compétitif, on publie aucun temps, que tu sais que peu importe le temps que tu prends pour compléter ton défi, ta distance, tu as la même récompense, tu as la même médaille. Nos participants, quand on affiche nos résultats, c'est affiché par ordre alphabétique. Donc, tout le monde, puis par le principe, tu as des participants qui commencent au début de la piste, plus de bonheur, il y en a qui commencent plus loin, plus tard, donc le skieur plus rapide pendant toute la journée, il dépasse des gens qui ont commencé plus loin sur la piste plus tard. Fait qu'il n'a jamais l'impression d'être le premier parce qu'il dépasse du monde toute la journée. Puis la personne qui est moins rapide, qui a commencé plus tard, plus loin, n'a jamais l'impression d'être le dernier parce qu'il se fait toujours dépasser. Puis ces gens-là s'encouragent. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de grands-parents qui skient avec les enfants pendant que les parents font peut-être leur coureur des bois. C'est particulier. Faut le vivre. Faut être là pour comprendre cette effervescence-là. Moi, j'en ai fait là, des événements sportifs en tant que participant. J'en organise depuis quoi, 20 ans à peu près. Tu sais, puis c'est incroyable. Tu sais, c'est vraiment particulier là.
Qu'est-ce qui fait que le ski de fond vient de reprendre? Moi, je le sais, t'en as toujours fait, puis je le sais, ton père en fait encore, puis tu sais, je pense que c'est les ménages, justement, je pense que c'est dans votre sang, là, faire du ski de fond, vous en faites toute la gang, toute la famille, mais ouais. Tu sais, je vois du monde sur Facebook, tout ça, qui publie, qui ont été faire du ski de fond, puis tabarouette, me semble que, là, une couple d'années, on voyait pas ça autant. C'est-tu la pandémie qui a fait sortir le monde puis qui a fait sortir les skis, ou c'est juste que les gens ont conscience qu'ils veulent se mettre en forme, tout ça, puis l'hiver, Colin, je pense qu'il n'y a pas vraiment un meilleur exercice justement pour se remettre en forme aussi. Là.
Je pense que c'est plusieurs raisons. Mais tu sais, tu l'as dit, hein, moi j'ai fait...
C'est peut-être le fait que tu peux prendre un shooter quand ça te tente, t'arrêtes, tu sors ton sac à dos, tu prends un shooter. Moi c'est ce qui m'accroche, là, je te le dis. Là.
Un petit décaper, là. Rien de meilleur.
Ça aussi, c'est dans le sang des ménards.
Ça aussi, ouais. Décourageant. Non, mais oui, c'est vrai, moi j'ai fait du ski de fond pas mal toute ma vie. Tu sais, j'ai touché à tout. Tu sais, j'avais délaissé un peu peut-être, j'en faisais moins à l'adolescence. On jouait pas mal au hockey, t'as des tournois de hockey un peu partout. Mais tu sais, j'ai jamais fait de compétition de ski de fond. J'ai jamais été membre d'un club, c'était toujours de façon récréative pour le fun. Mais t'as raison, puis je me le dis moi à moi-même souvent, tu sais, des gars, des filles qui font du ski de fond maintenant régulièrement. que jamais j'aurais pensé il y a 20 ans, puis je nommerais pas personne pour pas mettre personne sur ce poste, là, mais tu sais, des gars qui étaient bombes pas mal au secondaire, là.
Je pense que je sais exactement de qui tu parles, mais on dira pas de nom, effectivement.
Ouais, c'est ça, mais pas de nom. Mais je pense que c'est plusieurs facteurs. Puis le ski de fond, là, un temps était aussi associé à quelque chose de plus mononcle, ma tante, grand-papa et grand-maman. Mmh. Maintenant, je pense que c'est différent, notre vision aussi. La pandémie nous a amené aussi à trouver des activités à faire à l'extérieur, parce qu'à un moment donné, d'être encabané, l'être humain n'est pas fait pour être entre quatre murs, là. On a besoin de prendre l'air. Tout ce désir-là aussi de prendre soin de nous, tout le mouvement du Grand Défi Pierre Lavoie, ouais. Ici, je pense que ça a un impact. Tout le vieillissement de la population aussi. Notre génération, on prend aussi, on se rend compte. Là, je veux dire, quand tu te lèves le matin, moi, je sais qu'aujourd'hui, moi, j'ai 41 ans. À 41 ans, là, on est live, là, mais tu sais, je suis crissement plus en chèque qu'à 27 ans, là. Moi, je me calisse une volée, là. Mon 41 ans se prend n'importe quelle activité physique, là, contre mon. À 27, j'étais quand même, tu sais, on joue à balle ensemble, tout ça. Ouais. Mais non, oublie ça, là. Ça se compare même pas, puis c'est une question d'être conscient dans tout ça. Fait que je pense que c'est ça, la pandémie, le fait que c'est une activité extérieure, le fait aussi que c'est une activité où est-ce que t'es en connexion aussi avec la nature, tu sais, quand tu pognes la bonne technique, quand tu réalises que c'est un sport de glisse, que tu fais ton transfert de poids, à un moment donné, tu arrives dans une zone où est-ce que t'es on dirait que tu voles, que tu flottes.
Puis
c'est pas physiquement quand t'as la bonne technique, à moins de t'accoter puis d'essayer là d'essayer d'aller le plus vite possible. Tu sais, c'est sûr que quand je vais skier avec mon chum Vincent Lauzon, avec Pierre-Luc Brunet, mais tu sais, c'est sûr que là, ça c'est un autre genre de plaisir là. Mais sinon, tu sais, si tu vas dans une zone qui est confortable, mais c'est très agréable comme activité. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Puis tu peux faire ça en famille, tu peux faire ça avec des gens de plein de calibres différents. Je pense que c'est cool. Pour une foule de raisons. Le fait aussi, honnêtement, dans la région, que depuis quelques années, les écoles primaires font beaucoup de ski. Nous, au marathon, maintenant, là, c'était la septième année qu'on offrait le mini-marathon gratuit pour les écoles primaires. Donc, les enfants font du ski à l'école. Ils ont du plaisir. Il faut que ça soit associé au plaisir. Donc, c'est jamais compétitif, hein. Notre offre de service est toujours participatif et inclusive. Donc, les jeunes, les enfants reviennent à la maison, puis ils achètent leurs parents.
On va y aller.
Puis là, on a des beaux projets dans la région avec Ski La Seigneurie. Puis on a aussi la même chose au Montagnard à répondre. Donc, il y a plusieurs municipalités qui offrent la possibilité d'aller skier, puis la possibilité d'avoir accès à de l'équipement de location gratuitement. Mm-hmm. Donc, cette offre de service-là fait en sorte que pour notre milieu, c'est d'avoir des activités qui sont offertes gratuitement pour les résidents, avoir puis avec de l'équipement aussi gratuitement, ben tu sais, c'est vraiment, ça devient accessible. Puis là, ben t'en fais une couple de fois avec tes enfants, t'aimes ça, ben dans l'année suivante, ben t'investis peut-être dans un petit équipement de moyen gamme, t'en fais un petit peu plus, puis là, ben après ça, ben ça fait boule de neige là, puis tu vois quelqu'un qui en fait, les gens t'invitent. Fait que tu sais, c'est une foule de facteurs, c'est plusieurs facteurs pour nous ici, régionalement, là, je pense.
Ben oui, puis regarde, tu sais, le centre touristique du Lac-Simon, il y a des trails, il y a l'auberge et club de golf Héritage qui en a, le château Montebello. Fait que tu sais, même les entreprises privées, publiques, tout ça, il y a de l'installation, là, tu sais, il y a des places pour en faire, fait que c'est cool. Ben écoute, Fred, bon succès avec l'édition 2021, en espérant que l'édition 2022 se passe présentiel. Et je pense que pour l'édition 2022, je l'annonce officiellement, je vais participer dans la catégorie enfants de moins de 5 ans, mais je vais participer quand même. je vais l'essayer parce que moi aussi, je fais du ski alpin et tout ça. Mais tu sais, ça fait une couple de fois, je dis à ma blonde, je veux faire du ski de fond comme dans le temps on en faisait à l'école puis tout ça. C'est une bonne activité pour se remettre en forme. Je te laisse aller fêter ton petit Émile qui grandit.
Oui, c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Tu sais, c'est un bébé marathon, donc à chaque année, là, tu sais, dans son anniversaire est en plein dans ma grosse période de l'année. Il y a même une année, ça c'est une belle anecdote, il y a une année, sa fête était le samedi du marathon. Puis il y a une catégorie, là, les coureurs des bois, eux autres, ils couchent à la Belle Étoile. Puis quand on a visité le camp, Emile est venu faire un tour ce soir-là, puis il y avait un de mes amis, un des participants, qui avait amené un petit cupcake du Saguenay dans son sac à dos. Il avait skié 80 km avec le cupcake, avec la chandelle, puis il l'a allumé directement au feu, à son feu de bois autour du feu auquel il couchait, puis les participants ont chanté « Bonne fête, Emile ». Ça, c'est des beaux moments comme ça, c'est des belles attentions. Là.
Vraiment cool. Vraiment cool. Hey, merci, Fred, d'avoir pris le temps de nous jaser. Je vais faire la promotion un petit peu de ces événements-là dans la région, puis il va falloir que tu reviennes, parce que là, on a de la cale. On veut que, apparemment, on veut qu'on se compte des anecdotes. Fait qu'on va se faire une édition.
J'ai plusieurs choses. On peut aborder plusieurs sujets. Tu sais, tu m'avais invité l'autre fois pour venir parler là des séries
de foot,
du Super Bowl. Tu sais, j'ai coaché au foot pendant une dizaine d'années. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote en lien avec le marathon puis le Super Bowl. L'an dernier, la sœur et le père de Laurent Duvernier-Tardif ont participé au marathon de ski. Laurent
cool.
Et ski sont aussi à l'occasion. Ces deux sœurs ont été ont fait du ski de fond de haut niveau là, de compétition. Puis moi, une des petites traditions que j'ai, c'est que j'écris des messages personnalisés à la main derrière des dossards de gens que je connais. Fait que je prends le temps là dans les derniers jours avant l'événement, là, des commanditaires, des amis, des gens qui reviennent année après année. Fait que tu sais, je prends comme un 4, 5, 6 heures le soir au bureau, puis j'écris des notes. Puis j'avais écrit une note à l'endos du dossard de sa sœur. J'avais écrit quelque chose. Je pense que j'avais écrit l'année passée, Super Bowl, hein, c'était où? C'est-tu à Miami?
Je pense que Miami. Non, Miami, c'est l'année prochaine. Fait que, il me semble que c'était pas à Miami, là, mais Renaud Bourbonnais va nous le dire.
Disons, j'avais écrit à.
Attends une minute, Renaud, je t'amène en nom. Salut Renaud,
Salut, ça va bien? Je suis en train de crier devant mon écran, là.
Ben, c'est pour ça, j'ai dit, il est backstage, je l'amène en nom.
Miami l'an passé.
Okay, Los Angeles l'an prochain. Je suis pas si que ça. Fait que j'avais écrit à l'endos de son dessert. De Miami à Montebello, du Super Bowl au marathon canadien de ski. Quelle semaine incroyable. Bon marathon. Puis, il y a des gens que je croise des fois pendant la fin de semaine à des checkpoints parce que, tu sais, moi, pendant le marathon, je dors à peu près 15 minutes puis je promène, mais je peux pas participer. Puis, je suis arrivé à un checkpoint la dernière journée. Au dernier checkpoint, il y a une fille qui me tape sur l'épaule. Je me retourne, je la connais pas vraiment. Je sais pas c'est qui. Puis, elle dit, c'est-tu toi, Fred? C'est-tu toi qui organise l'événement? Je dis, oui. Elle dit, je suis la sœur à Laurent. Elle dit, je veux te dire, on tripe au bout, on a du fun. Elle dit, ton message en arrière du docteur, il nous a fait rire vendredi soir. On était stressés, on avait peur, on savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. Ça nous a détendu. Fait que, tu sais, c'est, en tout cas, hein, c'est des petits moments comme ça qui font en sorte que, c'est une belle petite paye aussi, puis c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai essayé d'aller chercher le crochet et d'accrocher Laurent pour qu'il vienne participer là, éventuellement.
Ça, c'est, si ça arrive, moi je prendrais un petit bol en bois pour manger ma salade. Avant mon édition 2022, il va falloir que je mange pas mal de salade. Fait que si tu pouvais accrocher Laurent qu'il me fasse un bol en bois, je serais bien preneur. Là.
Je vous laisse là-dessus. Juste, les inscriptions sont toujours ouvertes, les gens qui veulent participer, c'est ouvert jusqu'à la fin de la fenêtre, donc ça se termine le 7 mars et à la fin de la semaine de relâche, donc on peut skier entre 15 km et puis jusqu'à 50 km par jour, deux jours de suite, ça c'est notre catégorie là, la plus hardcore cette année, mais 15 km, il n'y a pas de limite de temps, fait que tu peux faire 5 km... Tu prends une bière, Simon, 5 autres kilomètres, tu prends une petite de Grand Marnier, puis 5 autres kilomètres. Même si ça t'a pris ta journée, mais tu te qualifies parce que tu as fait une sortie de 15. Fait que.
Ou juste si tu es encore trouvable.
Allez regarder ça, c'est vraiment cool. Puis comme on disait tantôt, le ski de fond, c'est rendu comme semi-cool. Fait que c'est pas pire.
Je vais retenir ça. Hey, merci Fred, va fêter ton petit bonhomme, puis merci d'avoir été là pour s'en
rendre. Oui, puis je me remets à jour un peu dans le foot, puis je vais être là l'année prochaine. Là.
Excellent, tu vas être sur le show de début de saison.
Ça, je peux résumer Super Bowl, hein. Si t'as pas d'O-line, tu peux gagner.
Exact. on va en reparler avec Renaud tout à l'heure. Hey, merci Fred, ciao mon vieux. Salut ciao, Renaud, Renaud, je te reparle dans pas long aussi.
Y a pas de problème.
OK, ciao les boys. je retourne tout seul. On va amener mon prochain invité parce que Fred Ménard, là, ça, c'est un bon Jack, là, mais il m'a dit j'ai 15 minutes, ça va être à mon gars, puis tu vois, on vient de faire 36 minutes. All right, mon chum, bien content de t'en parler. Ah, on amène mon prochain invité, Vincent. Salut, mon Vincent, comment est-ce qu'il va? Tu m'entends-tu?
Allô?
Vincent, salut Vincent!
Écoute, j'entends rien, moi, de mon côté. Ça fait comme des drôles de sons.
Ah ouais? Je peux te faire des drôles de sons.
J'essaierais de peut-être sortir et revenir ou quelque chose dans le genre parce que...
Essaye ça. OK, essaye ça. Les joies du direct. On va attendre que Vincent se reconnecte. Fred, super cool. Super, c'est bien fun de jaser. Moi, je vais prendre une gorgée de bière parce que c'est ce que je fais de mieux dans ce podcast-là. J'en profite pour dire aux gens qui écoutent sur Facebook ou un petit peu partout là, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. J'aime assez ça dire ça, là, que je suis sur Twitch. Envoyez des commentaires. Je ne sais pas s'il y en a qui ont commenté à date l'événement. Je vois pas les commentaires. Fait que, peut-être que c'est un genre de glitch de la nouvelle application. C'est possible. J'ai essayé d'envoyer des petits commentaires, des salutations, peu importe. Merci aux nouveaux abonnés parce que oui, depuis une couple de semaines, là, je suis agréablement surpris. Des nouveaux abonnés sur YouTube, des nouveaux abonnés sur Twitch, qui ne sont pas moi-même, hein, parce que ceux qui sont habitués du podcast savent que pendant deux semaines de temps, je croyais avoir un nouvel abonné sur Twitch alors que c'était mon cellulaire qui était connecté. Donc, j'étais mon propre premier auditeur sur Twitch. Non, c'est ça, n'importe quoi. Mais commentez que je puisse voir si ça fonctionne. Je vais écrire un petit message, voir si ça va écrire sur les différentes plateformes. Ça a l'air à bien fonctionner. Donc, oui, on peut les mettre à l'écran. Oh, ça, c'est nice. Pouvez-vous croire que j'ai envoyé ce commentaire-là? Parce que, OK, j'utilise ce soir pour la première fois une application qui s'appelle Melon App, qui est développée par la gang d'OBS puis de Streamlabs. Donc, j'utilise ce nouveau logiciel-là, ce nouveau programme, cette nouvelle plateforme. Et puis, étonnamment, j'ai envoyé un commentaire tantôt pour dire, « Ah, ça serait cool qu'on puisse mettre les commentaires des gens à l'écran quand on, par exemple, quand on les voit là, tu sais, sur le chat puis tout ça. » J'avais l'impression que ça se faisait pas, puis là, ben, je viens de voir que ça se fait, en fait. Donc, malade. Vraiment content. Vincent, ça n'a pas l'air de fonctionner, donc, écoute, je vais amener mes autres invités. Vincent, si tu m'entends, fais juste, c'est pas grave, au pire, tu reviendras ou on fera un spécial ensemble. Si t'es pas capable de te reconnecter, je veux dire, là, on se fera un petit spécial peut-être au courant de la semaine qu'on préenregistrera, puis on pourra le diffuser la semaine prochaine. C'est de valeur parce que je voulais vraiment présenter ton projet, une chaîne YouTube, j'en reparle encore, allez vous abonner. C'est Vincent Ouellette des Trois Maisons et puis son channel YouTube, c'est plein de vidéos que Vincent travaille vraiment fort à créer, puis c'est en tout cas, il aurait pu nous dire exactement ce qu'il y a derrière la tête avec tout ça, mais moi, j'appelle ça de la vulgarisation. Donc, il explique un paquet de trucs, que ce soit de l'actualité, que ce soit au niveau politique, par exemple, parce qu'il est vraiment connaisseur, que ce soit des trucs au niveau, tu sais, d'enseignement de certaines affaires. C'est un professeur de mathématiques dans la vie. Donc, sa chaîne YouTube est vraiment intéressante. Là. C'est vraiment bien fait, ses vidéos. Il y a de la préparation derrière tout ça, ça paraît. Donc, entre-temps, si on n'est pas capable de se reparler sur le show, allez visiter son channel YouTube. Vraiment, ça vaut la peine. Donc, sans plus tarder, vu qu'ils sont là, mes buddies de foot, on va les amener tout de suite. Vous avez déjà rencontré Renaud, hein, qui est venu intervenir pour me corriger. Good job, mon Renaud. T'as bien fait ça. Salut, comment ça va, Shane?
Ça va bien, vous autres? On m'entend bien. Nouvelle application ce soir, effectivement. Là, le son fonctionne, l'image fonctionne, c'est merveilleux.
je pense que je te dois un gros merci de ce côté-là. Shane, c'est un gars qui se prépare. Il m'écrit, il dit, ça t'a dit qu'on fasse un petit test de son? Je vais checker mes affaires, tout ça, c'est parfait. On fait notre test de son, je l'entends pas. On amène Renaud avec nous autres, je l'entends pas. Tabarouette. Fait qu'une chance qu'on a fait ça, on a réussi à trouver le problème qui était de mon côté, là, les petits settings qu'il fallait que je mette comme il faut, correctement, on va se le dire. Donc, merci les boys. Merci d'être là. En tout cas, je suis content. On se fait un petit... après ça, je vais vous laisser tranquille. Là, je vais arrêter de vous harceler pour venir sur mon podcast. dimanche, c'était le Super Bowl 55, remporté de main de maître par Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay au compte de 31-9. Si quelqu'un qui n'était pas surpris du pointage, c'est un menteur, on va se le dire. Là. On s'attendait à quelque chose de probablement beaucoup plus serré que ça. Et je vais le dire tout de suite d'entrée de jeu, Tom Brady est le greatest of all time. Et je le dis pour un certain Éric Huard qui nous écoute probablement. Où il va nous écouter. Puis en tout cas, il va sûrement enregistrer ce que je viens de dire puis il va le réécouter à répétition. Mais avant de parler de ce qui s'est passé pendant le match, tout ça, est-ce que vous avez apprécié votre Super Bowl?
Ouais, ben, on a eu du fun. Nous, on était en tailgate party, les sportscasters étaient trop forts pour la ligue. On a fait un gros tailgate, un trivia.
Un job de malade, les gars. Pour vrai, là, c'était vraiment cool.
Fernando, qui était notre fan de la journée, qui a gagné un jersey NFL, qui a gagné un ballon de football. Fait que dans les circonstances, on a eu un super beau Super Bowl. Comme je disais avec Eric, au début de la saison, on savait pas si on allait pouvoir faire quelque chose comme ça. C'était pas un party, mais c'est un party virtuel. Tu sais, on avait de la bouffe, on a le livreur du Zibo qui est venu nous porter des ailes de poulet. Fait que,
il a reçu 100 piastres de type puis qui avait l'air à pas savoir quoi faire.
Ouais. Bonne action.
Ah ouais, c'était cool.
OK, ben nous aussi, écoute, ça a été cool. Je suis avec les colocs ici, donc évidemment, on a eu du fun. Ça a été de la bonne bouffe crottée. Ça va nous prendre du temps à nous en remettre, là, mais ça va quand même. Puis tu sais, le beat NFL n'a pas lâché même après. Là, l'actualité, elle ne lâche pas du tout. Fait qu'on est encore dans le même beat là, de football. Puis oui, on a passé une vraiment belle soirée.
J'ai vu tes stories, là, des bons nachos.
Ouais, fallait bien faire ça.
C'est ça que j'allais dire. Je pense que Renaud a publié des nouvelles avec les doigts pleins de fromage puis de salsa.
Ah ouais. Ben ouais, ben pour les gens qui l'ont pas vu là, c'est que c'est sur Instagram, j'ai mis des stories puis tu sais, je fais pas souvent ça, mettre des stories de la sorte là dans, mais j'étais un peu frustré contre les créateurs de nachos qui font toujours l'erreur de mettre plein de chips dans le fond, tout piqué sur le top puis que tu te ramasses rapidement avec des chips à rien, donc j'étais allé étage par étage. En fait, c'était cochon, mais pour de vrai, on est passé au travers, puis c'était vraiment bon.
Nice. Écoute, le résultat du match, on va se le dire, c'est, je l'ai dit d'entrée de jeu, pour moi, est une surprise. Je m'attendais à un match beaucoup plus serré. On l'avait dit sur le pré-show qu'on a fait ensemble, puis que ça allait être un match où est-ce que ça pouvait autant être les Buccaneers que les Chiefs qui allaient remporter ce match-là. Fred, juste avant de quitter, Fred Ménard, qui est un coach de football au niveau secondaire aussi, là il coach plus maintenant, mais il l'a mentionné un petit peu avant de quitter. La O-line des Buccaneers a été dominante comme jamais. Je pense que ça a été la clé du succès pour les Buccaneers.
Ouais, puis surtout celle des Chiefs a été absolument horrible. Je sais pas si vous avez vu la statistique passer, mais Patrick Mahomes qui a couru pour 495 verges derrière la ligne de mêlée dans ce match-là. Tu sais, on l'a vu lancer une passe en tournant sur lui-même, une passe à pratiquement un pouce du sol là, sur le côté. Puis ces ballons-là ont terminé par être des ballons vraiment attrapables à la limite pour des receveurs. Un qui a pris en plein visage de sa cible, puis l'autre qui était, bon, un long shot, on va se le dire, mais quand même qui restait un ballon dans la limite du possible de l'attraper dans une situation où lui, il venait de se faire courir après par trois gars, avait deux gars sur le dos quand il a lancé le ballon. Donc, tout seul, Patrick Mahomes pouvait pas tout faire. La défensive des Bucs aussi qui a très bien fermé l'option de Tyreek Hill dès le début. Ça n'a pas été une option, même s'il termine avec 7 catchs là, dans le match, à peu près 73 verges, si je me trompe pas. Il y en avait trois après trois quarts. On a rapidement fermé cette option-là. Comme ça, Travis Kelce est devenu vraiment la seule cible possible de Patrick Mahomes qui avait pas le temps d'aller à une troisième lecture de toute façon sur ses jeux, étant donné que la pression rentrait en fou. Les Buccaneers ont mis des quelques blitz là, en pression supplémentaire au premier quart. Après ça, ça a été terminé. C'est le match où ils ont le moins utilisé le blitz de toute la saison. Vraiment, une bonne job de coaching de Bruce Arians là, contre Andy Reid.
Dans l'analyse qu'on faisait aussi, on parlait que les Bucks devaient trouver le moyen de mettre de la pression, mais de garder le backfield, les safeties puis les cornerbacks, plus en retrait, de ne pas se faire beat deep, quoi. Surtout avec Tyreek Hill puis des joueurs qui sont explosifs avec de la vitesse. Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont joué avec deux safeties tout le long, puis ils ont été capables de mettre de la pression. Comme tu dis, Renaud, c'est une des fois, je pense, qu'ils ont blitzé le moins, mais en même temps, ça a été, je pense, la fois qu'il y a eu le plus de pression sur un carrière au Super Bowl. 24 fois, je pense qu'il y a eu de la pression sur Mahomes versus 6 sur Brady. Le plan de match défensif était exécuté à merveille. Tom Brady a gagné le MVP, mais si on pouvait lui donner un gros MVP à cette défense-là, je pense qu'elle serait bien méritée.
Ah, définitivement. On a parlé de Bruce Arians, mais est-ce qu'il y a tant que ça out-coaché Andy Reid sur ce match-là, ou c'est vraiment juste les facteurs comme sur le jeu que ça s'est déroulé?
Ben, tant qu'à moi, oui, il y a eu une meilleure job de coaching du côté des Buccaneers. Du côté d'Andy Reid, par contre, faut penser à toute l'histoire qui vient avec le fait que son fils, qui est un assistant, un entraîneur sur le staff de l'équipe, tu sais, qui a été congédié en passant depuis, mais qui se fait arrêter parce qu'il y a eu un accident en état d'ébriété. Il y a deux enfants gravement blessés là-dedans. Une qui était même, on questionnait à savoir si elle allait mourir. J'ai pas vu là, si finalement c'était le cas ou non, mais peu importe. Mais tu sais, c'est quand même ton fils qui est impliqué dans cette histoire-là, puis ça implique en plus toute l'organisation des Chiefs. Donc je dis pas, je serais pas surpris. C'est sûr et certain que Andy Reid n'était pas à 100% là pendant le match.
Il n'y avait même pas son allure de coach, je trouvais, de sa présence habituelle. Tu sais, on dirait qu'il... Encore là, on voit ça assis sur notre divan, là, mais il avait l'air de chercher dans le playbook. Il avait pas le même regard de coach agressif puis de coach en contrôle qu'on voit d'habitude en dessous de ses lunettes puis au-dessus de sa moustache. Là. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de différent. En plus, que même s'il y avait un plan de match, il avait pas le temps de l'exécuter. Là. Mahomes, comme tu disais, Renaud, il avait pas le temps d'aller à son deuxième ou troisième read. Fait que s'il y en avait un plan de match, les Bucks ont contré ça assez rapidement. Fait que... Une meilleure job de coaching, oui, mais une meilleure job d'ensemble. Quand on parle de coach, je parle pas juste d'Arian, je parle de Todd Bowles, je parle de Byron Leftwich, puis tout le support staff aussi. Vraiment, là, essaye de trouver un trou à cette équipe-là, dans ce match-là, puis même pour ce qui s'en vient là, pour la saison prochaine, c'est vraiment une équipe complète.
Puis Todd Bowles avait été vraiment critiqué à la semaine 12 quand les Chiefs avaient écrasé là, les Buccaneers en saison régulière, avaient mal géré le cas de Tyreek Hill qu'on avait laissé en 1 contre 1 pendant toute la première demi. Donc, il y avait beaucoup de pression sur ses épaules pour ce match-là. Puis, oui, c'est les gars qui ont exécuté sur le terrain, on s'entend là, là-dessus, mais il n'aurait pas pu mieux préparer son unité là, pour ce match-là.
Je ne vais pas mettre ça sur le dos de la COVID comme tel, mais la pandémie, mais est-ce que le fait de jouer à Tampa Bay pour les Buccaneers a été un avantage dans ce match-là, ou ça a pas vraiment eu lieu? Là, c'est pas un impact, là.
Mais moi, j'ai toujours dit que c'est sûr que c'était un avantage dans le sens que c'est le confort. Tu sais, t'es chez vous, tu te lèves dans tes affaires le matin, t'as pas de voyagement à faire. Là où j'étais pas sûr, c'est que ça serait tant un désavantage pour les Chiefs. Je pensais que pour eux, là, ça changerait pas grand-chose. Pour les Bucks, ça serait juste un petit plus, mais peut-être pas assez pour changer la donne. Mais après ça, avec toutes les distractions qu'il y a eu pour les Chiefs, en plus... On a vu comment que les Bucks sont arrivés fresh and ready to go. Avec ce qu'on a vu là, je suis prêt à dire que il y avait un petit avantage là, de jouer à domicile pour le Super Bowl.
Ouais, ben moi je vais un peu dans le même sens que Shane. Pour moi, c'était oui l'avantage d'un confort à domicile, comme pour une partie de saison régulière pour l'équipe qui était à la maison. Je me demandais plus mes doutes étaient plus du côté des Chiefs également, mais tu sais, le fait que cette semaine il n'y ait pas eu les grosses activités qu'il y a d'habitude en lien avec le Super Bowl, ça fait aussi que les Chiefs n'ont pas passé une semaine à l'hôtel à Tampa Bay. Ils sont arrivés, si je ne me trompe pas, samedi dans la journée en Floride. Donc, pour eux, ça a été un planning un peu plus régulier, un peu comme on voit toute la saison. Donc, ça, selon moi, c'est peut-être un avantage pour eux par rapport à ce que ça aurait été une année normale où on va toute la semaine. Mais au final, tu regardes le résultat du match, puis ils se sont juste fait écraser.
Êtes-vous content pour un gars comme Anthony Auclair, justement, même s'il n'a pas joué, qu'il remporte le Super Bowl?
Ben, pas le choix là, d'être fier d'un athlète local qui réussit là, un exploit comme ça, même s'il n'était pas dans l'alignement dimanche passé. Ça reste quand même un gars qui se fait une place sur cette équipe-là depuis 4 ans comme agent libre non repêché. Puis tu sais, c'est une position à laquelle les Buccaneers ont amené du monde depuis quelques années. La même année qu'Auclair, on avait repêché au Jowers. Cette année, il y a Rob Gronkowski qui arrive, mais tu sais, il n'a jamais été coupé. Puis si pour vrai, il était de trop pour l'équipe, il n'y en a pas des places supplémentaires sur une équipe de football, puis surtout pas à cette position-là. Donc, il aurait été coupé. Donc, oui, bravo à Anthony Auclair pour ça. Puis, tu sais, je ne sais pas si vous avez vu la photo avec le drapeau du Québec.
Le drapeau, mais
c'est
ouais.
François Legault qui l'avait envoyé, qui l'a signé en plein milieu.
Ah ouais?
Ouais, exact. Donc oui, ben, bravo à Anthony.
Bravo à Anthony, certain.
Bravo Anthony, bravo à Tom Brady qui a pris ses premières gouttes d'alcool hier.
Hey, ça là, j'écoutais Bernard Drainville aujourd'hui à la radio qui a pris la peine de demander est-ce que Brady se fait du mal, est-ce qu'il nuit à son image en faisant le party sur le bateau. Il s'est fait ramasser par les auditeurs, là, il disait ah non, il dit, moi j'ai juste posé la question, là, excusez-moi. Pose la question, mais attends-toi de faire ramasser. Voyons donc, le gars, il y a 7 Super Bowls. C'est plus de Super Bowl que toutes les franchises de la NFL. Toi, tu ferais quoi? Tu ferais pas le party? Parce que oui.
Je serais sous mort. Moi, j'aurais plus l'air d'Ovechkin. Là, mais... je serais magané en tabarouette, laisse-moi te le dire. Mais tu sais, ce gars-là, en plus, là, on le sait, là, demain matin, là, il recommence sa routine, puis il va être, tu sais, il est tellement... est-ce que vous l'avez vu, le documentaire en plusieurs étapes là, qui était présenté sur Facebook Watch, là, quoi, un an, deux ans, sur la manière dont il s'entraîne, dont il mange, puis lui, c'est over the top, là, puis ça explique probablement pourquoi c'est le greatest of all time. Là. Mais ce gars-là, il va recommencer son entraînement comme dans quelques heures, là, sans plus. Là.
Non, je l'ai haïssais trop il y a 2 ans pour écouter ça, je te dirais. Là, c'est tout nouveau là, que j'encourage Tom Brady.
Exactement.
L'histoire d'amour vient juste de commencer.
Oui, c'est ça. Non, mais je l'encourageais. T'sais, c'est sûr qu'on voulait tous voir là, la sortie de l'ombre de Bill Belichick puis la sortie des Patriots. T'sais, il a pris de toutes les franchises là, qui auraient probablement signé Brady. Il a choisi Tampa Bay, une équipe qui n'avait pas gagné un match de série depuis même de playoff. Je ne sais pas si ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait les playoffs. Plus gagner 2007. Un match de playoff en 2007.
2007 participé, puis 20 ans, je pense, pour gagner.
Ben, 20 ans, je pense, gagner. Ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas gagné. Fait que là, en plus, il arrive à Tampa Bay, prendre, je pense qu'il était 7-9 l'année passée, ou 9-7. Mm-hmm. Fait qu'il choisit Tampa Bay avec le corps de wide receiver qu'il avait là avec Mike Evans, avec Chris Godwin. Puis lui, il a dit, moi, je vais aller chercher Gronk, moi, je vais aller chercher Antonio Brown, je vais aller chercher Leonard Fournette. C'est Gronk, on n'était pas sûr s'il allait être healthy. Antonio Brown, Fournette, on sait les controverses qu'il y avait autour de ces gars-là. Lui, il a vouché pour eux autres. Il dit, je veux aller les chercher. Ils vont faire partie de l'équipe. Il a gagné le Super Bowl avec eux autres.
Ouais, ben, j'ai vu passer il y a quelques jours, au lendemain, je pense, du match du Super Bowl ou la veille du match, peu importe, une statistique avant la saison 2020, donc en septembre dernier. Les Buccaneers de Tampa Bay étaient l'organisation sportive en Amérique du Nord, dans les grandes ligues sportives, là, on s'entend, qui avait le pire pourcentage de victoires dans tout le sport nord-américain. Donc, c'était vraiment une franchise qui était condamnée à la médiocrité. Lui est arrivé là d'un coup, puis a complètement là, viré ça de bord, les a amenés à un championnat. C'est une équipe, comme tu dis, qui avait déjà des outils là, pour gagner. C'était une équipe qui avait des bons joueurs, qui avait probablement une meilleure équipe que ce que leur fiche de l'an dernier montrait. Puis finalement, ils ont réussi à passer la barrière puis à aller gagner un championnat.
Est-ce que tout ce monde-là est de retour l'année prochaine avec les Buccaneers, vous pensez?
Je serais vraiment surpris, à moins que tout le monde veuille prendre des rabais, mais tu regardes un gars comme Chris Godwin, finit son contrat de recrue, lui, c'est probablement celui qui va avoir la hausse salariale la plus importante. Ouais. Tu vois un Antonio Brown, un Leonard Fournette, je te dis pas que tout le monde va partir, mais tous ces gars-là vont se mériter une augmentation de salaire, pas nécessairement pour aller toucher des gros salaires faramineux, mais quand même, Antonio Brown qui réalise quoi? Je pense que c'est 45 catchs en 8 matchs, quand ça faisait un an qu'il avait pas joué pratiquement. C'est complètement fou de voir ça. Il va aller chercher certainement plus d'argent que ce qu'il y a en ce moment avec les Buccaneers. Donc, il y a des éléments qui vont être de retour. Je suis convaincu qu'il y en a qui vont prendre moins d'argent que ce qu'ils pourraient faire ailleurs pour revenir, mais de là à dire que tout le monde va être de retour. moi, je vois ça comme étant impossible. Mais on a vu Adrian Peterson aujourd'hui dire qu'il aimerait, hier, qu'il aimerait aller jouer avec Tom Brady. Donc, si Leonard Fournette passe, ça pourrait être une option assez plaisante.
Shaq Barrett aussi, à défenseur qui joue sur le tag, qui va être assigné. Mais Antonio Brown, tu parlais de lui, est allé chercher un beau bonus, hein, Antonio Brown, qui est arrivé en mi-saison parce qu'il était suspendu les 8 premiers matchs. Il y avait un bonus à aller chercher s'il jouait un certain nombre de matchs, tous les matchs pour le restant de la saison. S'il y avait un certain nombre de catchs, puis s'il gagnait le Super Bowl. Je pense qu'il y avait un bonus aussi pour les touchdowns. Il est allé chercher tout ça. Je pense qu'il sort avec un petit beau petit bonus. Un Super Bowl, puis un petit 1,5 million à mettre dans sa poche aussi.
Ouais. Hein. Brady le visait un peu en deuxième demi du dernier match parce qu'il voulait l'aider à aller chercher justement. Je pense que le bonus était à 45 catch, puis c'est exactement ce qui là où il est terminé. Là. Donc, ouais, ça fait une belle petite pause pour Antonio qui, malgré tout ce qu'on a dit sur lui, malgré comment on l'a planté, tu sais, rappelez-vous, là, il y a un an, il y a des gens qui disaient plus jamais ce gars-là va jouer dans la NFL. Il est champion du Super Bowl, puis il a marqué un touché dans le match.
Ouais, effectivement. Parlant de Tampa Bay, on a Éric Huard là, qui nous écrit pour dire que la triple couronne a bien failli se passer à Tampa Bay. Au hockey, ils ont gagné la Coupe Stanley, le Super Bowl et les Rays qui ont perdu en World Series. Donc, est-ce que Tampa Bay est la ville hot en ce moment? Puis, faut absolument que tous les athlètes se retrouvent là.
À la première question, oui. À la deuxième, absolument pas. Pour des raisons évidentes. Mais en ce moment, pas le choix là, de voir cette ville-là comme une vraie ville de champion. C'est sûr qu'il manque. T'as les Raptors qui sont là en ce moment puis qui n'ont pas un début de saison nécessairement à la hauteur des attentes. Mais en ce moment, la ville de Tampa Bay, c'est sûr, là, c'est complètement fou ce qui se passe là-bas. L'affaire aussi, c'est qu'il va falloir qu'ils la gardent, leur équipe de baseball, par contre. Ça, c'est pas fait.
Ah, ça, j'aime ça. J'aime ça. On devrait rentrer, Charles-Alexis, vous en jasez.
On en parle assez souvent ici.
C'est sûr. J'ai le goût de te lancer ça, Shane. Côté fantasy au football, au Super Bowl, est-ce qu'il y a des trucs que tu regardais? Tu sais, j'ai vu que tu avais fait une espèce de questionnaire, un genre de pool. Est-ce que ça va être pile? Est-ce que ça va être face? Je trouvais ça vraiment malade. Là. Est-ce qu'il y a des trucs que tu regardais précisément pendant le Super Bowl?
Je te dirais qu'on a pas mal décroché Fantasy pour regarder le match, mais si j'avais eu à sélectionner des joueurs dans mon FanDuel, dans mon Fantasy, j'aurais pas voulu avoir plusieurs joueurs des Chiefs. Hein. Aucun touchdown n'a marqué. Kelsey qui a réussi quand même, ce tight end-là, là, c'est le tight end 1 en Fantasy, puis j'ai regardé la production des autres tight ends cette année. En deuxième, t'avais Darren Waller, puis en troisième, t'avais Logan Thomas de Washington. Puis lui, sa production, il est troisième tight end en Fantasy, puis il a produit à 56% de ce que Travis Kelsey a fait. Kelsey, là, je pense qu'il est allé chercher, je sais pas combien de qui a fait finalement le match, là, au-dessus de 100 verges, pas de toucher, mais ce tight end-là, il va être encore le tight end 1 dominant la saison prochaine. Fait que, avec les weapons de Tampa Bay, par contre, en fantasy aussi, c'est difficile quand t'es un propriétaire des gars comme Mike Evans, Antonio Brown ou Chris Godwin, parce que tu sais jamais vraiment à qui va aller le ballon. Mike Evans, ça a été frustrant plusieurs fois cette année de le voir commettre des gros échappés dans son début ou tout près. C'est pas arrivé cette fois-ci, mais tu sais, là, j'avais demandé dans le pool, il y avait 25 questions, on avait demandé aux gens, sélectionnez trois joueurs que vous pensez qui va marquer un touché. Puis tu sais, sur tous les participants qu'on a eu, il y a personne qui a choisi les trois joueurs correctement. Tout le monde avait mis soit un Tyreek Hill, un Kelsey, mais sinon même, tu sais, des Ronald Jones là, qui se faufilaient là-dedans.
Ouais.
Pas aucun participant qui avait réussi à trouver trois joueurs qui marquent un touché dans
ce game-là.
C'est impressionnant, ça, pour vrai. Ouais. La statistique qui me fait capoter, c'est le troisième à 56, je capote. Ça me fait, c'est fou. Qu'est-ce qui s'en vient cet hiver? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi qu'il faut regarder? Les agents libres les plus convoités? La vague des entraîneurs-chefs, comme à toutes les années. Mais qu'est-ce qui retient votre attention à vous autres pendant la saison morte?
Ben, je vais laisser Renaud répondre, mais je veux lancer le sujet quand même parce que sur Attitude Football, toutes les nouvelles de corps arrière sortent back-à-back. Le carrousel de corps arrière cette année. Je me souviens pas d'avoir vu ça. Autant de corps arrière qui ont des rumeurs qui vont changer d'adresse. On sait qu'il y a eu l'échange Stafford-Goff, mais c'est pas terminé.
Ah non, c'est vraiment pas terminé. Puis, tu sais, on a dit la même chose l'an passé du carrousel des carrières quand il y en avait eu quelques-uns, quand il y a eu un peu de bisbille avec Aaron Rodgers, quand Jordan Love a été repêché et tout. Ça avait un peu lancé. Le bail, puis Tom Brady, évidemment, qui est parti de la Nouvelle-Angleterre pour Tampa Bay. Mais cette année, c'est complètement fou. Là. Tu dis, on a eu l'échange de Goff. Il y a des rumeurs autour de Carson Wentz qui a demandé à quitter finalement les Eagles quand on croyait que c'était rendu que l'équipe avait décidé de le garder puis d'en faire le partant quand même. Là, c'est lui qui voudrait partir. Les Colts se cherchent un carrière. Deshaun Watson, évidemment, c'est le nom de l'heure sur le marché. Les deux carrières des Raiders, Marcus Mariota et Derek Carr, sont sur le marché également. Donc, il y a vraiment beaucoup de mouvements. Washington, on ne sait pas qui va être là. On sait que Taylor Heinicke a signé un contrat. Mais agent libre, ça va être au mois de mars. Puis à la fin du mois d'avril, en fait, c'est si je me trompe pas, le 30 avril au 2 mai, il y aura le repêchage de la NFL qui va être évidemment un autre point tournant. Puis par la suite, il va y avoir les transactions qui vont suivre justement le repêchage pour voir comment les équipes vont s'adapter. Puis je sais pas comment ça va fonctionner pour les entraînements d'été. Il n'y en a pas eu l'année passée à cause de la COVID. Puis les joueurs disent qu'ils en veulent plus maintenant parce qu'ils ont dit regardez comment ça sert à rien qu'on s'entraîne pendant 2 mois et demi avant ça. Donc, est-ce qu'on va juste avoir du football au mois d'août américain, là, je parle, parce qu'au niveau du football canadien, c'est déjà parti cette semaine. Il y avait le marché des joueurs autonomes qui ouvrait mardi. Mais ouais, non, c'est vraiment pas de repos, là, la saison morte au niveau du football.
Est-ce que tu as parlé de la CFL? Est-ce que Danny Machocha, non, ça c'est pas une question que je devrais poser. C'est assez clair qu'il est en mission de rapatrier des Québécois. Là. Je pense qu'il a une mission au niveau du sentiment d'appartenance à cette équipe-là. Est-ce que de rapatrier des Québécois avec les Alouettes, c'est le move à faire pour après ça performer sur le terrain, tu penses? Comme les moves qu'il fait, là, c'est oui, on veut des Québécois avec l'équipe, tout ça, mais est-ce que ça améliore l'équipe en tant que telle?
Ben, tu sais, il y a beaucoup de ces joueurs-là qui vont avoir comme principale mission de jouer sur les unités spéciales, mais tu vas voir les chiffres, puis ça ment pas. Un gars comme Kerfala Exumé a joué une seule saison dans la LCF jusqu'à maintenant, c'est en 2019, donc la dernière saison, à Winnipeg. Il a fini à égalité au deuxième rang de la Ligue pour les plaquer sur les unités spéciales avec 25. Donc, un ajout comme ça directement, si je me trompe pas, il a joué pour Danny Machocha à l'Université de Montréal. Ça, c'est une autre connexion rapide. Lui, il les connaît tous, les gars qui ont passé dans le réseau étudiant. D'aller chercher des gars comme ça, c'est sûr et certain que ça aide. Puis, tu sais, quand tu y penses, ces gars-là, ils jouent pas dans la NFL pour la plupart, surtout pas les gars qui sont sur les unités spéciales. Ils vont pas aller faire des gros salaires à chaque année. Donc, si t'es pour aller faire, puis je lance vraiment un chiffre en l'air, là, je dis pas le salaire de personne, mais si t'es pour aller faire 60 000 $ pour ta saison, puis que t'as le choix de la faire à Regina ou à Montréal, quand t'es un gars qui vient, disons, de Laval, le choix, il est pas super difficile. Puis tu sais, cette saison, on sait pas de quoi exactement les coupeurs ont l'air pour ces joueurs, les joueurs qui sont dans cette tranche de salaire-là, mais c'est encore moins d'argent qu'ils vont faire, donc c'est sûr que c'est un choix logique. Puis c'est quelque chose qu'on voit souvent depuis quelques années dans la LCF, les équipes de plus en plus, quand ils arrivent au repêchage, surtout dans les rondes plus tardives, essayent d'aller chercher des gars de la région, des gars locaux, parce qu'ils savent qu'après leur contrat de recrue de 2 ans, les chances qu'ils s'en aillent dans leur région après sont beaucoup plus grandes. Donc, à talent égal, là, on y va tout le temps avec la plupart du temps, en fait, avec un joueur local.
J'avais pas pensé à ça, c'est un bon point. Si je vous demandais les deux aujourd'hui en date du 11 février 2021, qui va se retrouver au Super Bowl en 2022?
Same teams.
Ouais, ben c'était ça le but de la question. Je voulais savoir si vous pensez.
J'ai commencé mes états des forces. Je sais qu'on allait en parler un peu à soir, puis j'étais allé voir celui officiel de la NFL. Puis déjà, là, j'étais en train de me faire des plus 1, moins 1, plus 3. Là, je commence à changer ça. Mais si demain matin, on avait à refaire le même tree, le playoff tree qu'on a fait en début des playoffs. Que d'ailleurs, je suis bien fait de la prédiction. Là, avant de quitter le podcast, la première semaine, j'avais quitté un peu là, sur le fly. Je m'avais demandé les prédictions. Je disais Chiefs, puis Bucks, les Bucks vont l'emporter. Je pense qu'on aurait un bracket vraiment similaire. Je souhaiterais par contre de voir les Chiefs à 100% avec le O-line, le O-line top shape, mais je pense qu'on aurait, si on avait à refaire le bracket demain matin, ça serait une finale pareille.
Moi, je compare souvent la NFL à soit une télé-réalité ou à une bande dessinée où c'est tous des super-héros et des vilains. Pour le bien de l'histoire de la NFL, il faut que ce soit les deux mêmes équipes. Patrick Mahomes va être en mission, va être le personnage principal de cette histoire-là. On va en parler toute l'année, le chemin pour revenir au Super Bowl. Puis lui, c'est sûr et certain qu'en dans lui, il y aura pas la même... Un Super Bowl l'an prochain n'aurait pas la même valeur si c'est pas contre Tom Brady et les Buccaneers. S'il veut revenir dans la fameuse conversation du GOAT, dont la porte présentement est pratiquement fermée étant donné qu'il l'a perdu contre Brady au Super Bowl. Il faut qu'il réussisse à le battre l'an prochain. Donc, ouais, pour le bien du storyline de la NFL, là, ce serait parfait d'avoir un autre duel Chiefs contre Buccaneers. Mais c'est sûr et certain que moi, je sais pas si vous le voyez bien, là. Mais j'aimerais ça que cette équipe-là fasse un petit tour au Super Bowl.
Ok, mais j'ai la meilleure storyline pour toi. Eli Manning sort de la retraite.
Ouais.
Okay, se joint à une équipe comme les Colts, amène les Colts au Super Bowl, bat Tom Brady pour une troisième fois.
Ouais, là, ça serait malade, puis ça mettrait vraiment fin aux spéculations sur le temps de la renommée pour Eli Manning.
Ouais.
J'aime ça, puis le pire, c'est que c'est possible. T'sais. Les Colts se cherchent un QB.
Je penserais pas, honnêtement. Je penserais pas.
Non, mais on parlait d'Andrew Luck, là, que les rumeurs sont reparties. Qu'est-ce qu'Andrew Luck pourrait faire un autre retour dans la NFL? Mais non, Eli Manning, je blaguais parce que j'ai vu un commentaire passer où est-ce qu'il a dit: moi, j'encourage toujours Tom Brady au Super Bowl parce que plus il performe, puis plus il bat des records. Il dit: moi, je l'ai battu deux fois. Fait que moi, j'ai juste l'air encore plus big shot. Là,
ouais, exact.
J'adore ça pour vrai. On a parlé de faire un peu l'état des forces. Les équipes en ce moment, tu sais, au départ de la saison, ben, telles qu'ils sont en ce moment, là, mais au départ de la prochaine saison, ce serait qui votre top 5? Je sais que ça va inclure les Chiefs puis les Buccaneers, mais qui complète votre top 5 de l'état des forces?
Moi, j'ai les Bills encore là. J'ai hâte de voir les Bills la saison prochaine. J'ai boosté les Rams dans mon top 5.
Avec
Stafford. Étant donné que je pense que la défensive va être encore élite. Puis j'ai hâte de voir ce que Stafford va faire vraiment avec ses weapons-là. On sait que c'est un carrière de 4000 verges et plus par saison. Avec un receiving core, là, des receveurs. À part, on parlait de Megatron l'autre jour, mais à part lui, là, tu sais, il y a eu Kenny Golladay. Kenny Golladay était blessé toute l'année. Stafford a réussi à faire des saisons quand même potables là, avec des receiving corps assez difficiles, puis il a remis des gars sur la map, comme Marvin Jones d'ailleurs, là, qui me vient en tête. Fait que je mets les Rams là-dedans. Je vais mettre les Packers, ok, mais les Packers, beaucoup de points d'interrogation. J'ai hâte de voir comment ils vont revenir la saison prochaine, si Aaron Jones va être là ou pas. Mais l'équipe qui a mon plus gros boost dans mon état des forces, qui est tout juste à l'extérieur de mon top 5, c'est les Browns de Cleveland.
Ouais.
Je pense que les Browns, avec la deuxième année à Stefanski, sont capables de garder ce noyau-là. Je pense que les Browns s'en vont dans la bonne direction. J'ai boosté les Browns, puis j'ai fadé les Ravens. Les Ravens prennent un drop pour moi.
Je suis d'accord pour faire tomber les Ravens. Pour moi, ils n'ont plus leur place dans le top 5 présentement. Ça ressemble beaucoup à ce que tu as présenté. Chiefs, Buccaneers, évidemment, doivent être là. Rams, pour moi, c'est une évidence qu'ils doivent être dans le top 5 présentement. Je me serais pas obstiné avec quelqu'un qui les avait avant, quand Jared Goff était au poste de corps, sans nécessairement en faire une formalité. Mais maintenant, pour moi, c'est une évidence qu'il faut les mettre là. Packers encore là également, puis j'avais pas les Browns dans mon top 5, je sais même plus à combien d'équipes je suis, mais les Bills, c'est ça, c'était la dernière équipe qui me manquait. Les Bills, comme toi, j'y vais encore. Je pense que c'est évidemment pas un mirage qu'on a vu cette année de la part de Josh Allen. Stephon Diggs va être encore là. L'attaque risque d'être assez similaire. J'espère qu'on va pouvoir faire en sorte d'améliorer le jeu au sol de cette équipe-là. Je sais pas si ça va passer par un nouveau porteur ou si ça va passer par améliorer la ligne à l'attaque, mais il va falloir que ça passe par quelque part. Si Devin Singletary aussi, je serais surpris qu'il connaisse une saison aussi mauvaise que celle qu'il vient de connaître dans le charrière des Bills. Fait qu'avec Zach Moss, qui était une recrue cette année, ça peut faire un bon duo dynamique. Lui, d'ailleurs, c'est dommage qu'on l'ait pas vu durant les éliminatoires. Donc oui, Buffalo encore dans le top 5 pour moi. Je suis vraiment d'accord avec où Shane s'en va dans ses décisions.
Fait que t'avais-tu les Packers là, toi aussi? T'avais les Packers dans ton top 5?
Est-ce que j'en ai nommé 6? Parce que
je pense que oui, je sais ça, mais je pense
vraiment pour ça, là.
Mais on s'est pas consulté pendant tout, puis je constate qu'on a le même top 5, puis on garde les Browns à la limite, puis on sort les Ravens. Fait que c'est pas mal un consensus d'état des forces dans le top 5.
Ouais, non, mais les Ravens, pour vrai, j'ai pas été inspiré par ce qu'on a vu cette saison, puis on dirait que j'ai un peu peur pour eux l'an prochain. Ils ont beaucoup à prouver s'ils veulent. Puis tu sais, on dit ça, on disait avant la saison que le but premier de cette équipe-là, c'était d'aller gagner un match éliminatoire. Ils l'ont fait, puis on dirait qu'on sort de là déçus au bout du compte.
Ils t'ont coûté une bouteille de fort aussi.
J'ai de la difficulté à les voir passer au prochain niveau. Puis quand tu dis que tu as atteint peut-être ton maximum, ben le seul endroit où tu peux aller, c'est vers le bas. Donc c'est ce qui me fait peur avec les Ravens. Je dis pas qu'ils vont rater les éliminatoires l'an prochain. Je pense que ça va être une équipe qui va devoir se battre jusqu'à la fin, par contre, pour se faire une place.
Écoutez, je suis d'accord avec votre top 5. Moi aussi, j'ai les Packers, les Bills, ces deux équipes-là qui ont passé quand même assez près de... Tu sais, les Packers ont passé à un Tom Brady d'être au Super Bowl.
Arrête.
Non, mais je suis d'accord avec votre top 5, les gars.
Mais ça, on en a pour toute une saison morte. Tout ça, ça va changer dans les prochains mois. Il y a tellement de joueurs qui vont changer d'endroit que c'est incroyable, tout ce qu'on dit en ce moment, ça ne va plus rien valoir dans quelques semaines.
Ça paraît que c'est la saison morte, parce que t'as Simon qui a dit qu'il était content pour Tom Brady, puis t'as Eric Huard l'autre jour qui a dit qu'il était content pour le MVP à Aaron Rodgers. Que, ouais. Là, on n'est plus dans la compétition, là, la politesse est de retour. Là, mais, au mois de septembre, on retourne en mode guerre. Là.
J'y dois une bouteille de rhum.
C'est vrai, toi aussi, t'as perdu quelque chose?
Ben oui, j'avais... Mais malgré le fait que lui avait dit qu'il croyait que les Packers allaient battre les Buccaneers, mais il a tenu le pari quand même en prenant Brady, et tu gages jamais contre Brady.
Mais j'ai été sur deux podcasts avec Eric, et si je ne me trompe pas, il a, sur ce match-là, il a gagé sur les Packers dans un des podcasts, puis il a mis sur les Buccaneers dans l'autre.
Ah, possible. Ah,
ça, je sais pas, mais je sais qu'elle a sélectionné les Chiefs pour gagner le Super Bowl parce que sa question, c'était qui peut battre les Chiefs. Puis j'ai dit, ben, n'importe qui pourrait les battre. Moi, j'avais pris toutes les autres équipes. Lui, il a pris les Chiefs. Ah, ça a mérité un beau jersey de la NFL.
Ouais. C'est vrai.
Ouais, c'était sur un podcast en zone nerd qu'on a fait ce pari-là, là, sur le live. Fait que j'ai pas encore choisi, là. Ça va peut-être être un beau jersey de Justin Jefferson des Vikings, je pense. C'est ça qui m'attend.
Le mauve doit aller à ravir. Hey, les boys, on finit avec une dernière question. Est-ce que Tom Brady remportera un 8e Super Bowl au Super Bowl 56?
Non.
Parfait. Ben, je vais dire oui d'abord, mais.
Je savais que tu allais dire oui, c'est pour ça que j'ai dit non. Je disais, on va faire un autre pari de suite.
Non, pour vrai, moi non plus, je pense pas. Je pense qu'on va avoir la finale de cette année en grande finale, mais je pense que le résultat va être différent. Je l'ai dit, c'est pour le bien de l'histoire de la NFL, pour le bien de la bande dessinée, il faut avoir un nouveau contender au titre de GOAT qui va nous monter sur 20 ans.
Ça passe par le headquarters de WWE puis Vince McMahon, tout ça.
Ouais, ouais, mais les 20 prochaines années du storyline de la NFL pourraient être décidées par un match comme celui-là.
Mais c'est ça qui fait des dynasties, tu sais, on compare tout le temps, savoir combien de fois c'est arrivé au Super Bowl qu'une équipe y va back-à-back ou gagne back-à-back, on sait à quel point c'est difficile. Des fois, juste de répéter une saison semblable à ça de l'année passée, de refaire les playoffs, de se rendre jusqu'au bout, de se rendre au Super Bowl, puis de le gagner back-à-back. Fait que là, vraiment, Tom Brady qui a, je le disais l'autre jour, là, si on divise sa carrière en deux, peut-être même qu'on peut s'assiner à diviser en trois, il y a deux ou trois carrières de Hall of Famer. Puis là, avec les Bucks, il y a la dynastie avec les Pats. Puis s'il reste encore quelques années, là, il a 43 ans, il parle de 44-45. Peut-être une autre mini-dynastie, là, une deuxième avec les Bucks. Fait que c'est vraiment incroyable.
J'aime ça, les gars. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi. Je trouve ça cool. On boucle la boucle là, ce soir après le Super Bowl, mais je pense qu'au-delà d'avoir suivi les playoffs ensemble puis de vous avoir sur le podcast pendant trois shows, je pense qu'on a développé une belle amitié tout le monde ensemble avec Eric. On va inclure Eric là, même si bon Tom Brady.
On l'aime.
C'est
même si on l'accuse d'avoir parié différemment.
Ouais, c'est ça.
On collabore beaucoup avec puis Eric. Je vous dis, il travaille super fort pour ce jeu, ça va super bien, mais on est content de travailler avec, content qu'il soit tout le temps avec nous autres. Fait que, puis checkez vos affaires, les gars, parce que les fantasy, là, ça commence maintenant, commencez à aligner là, vos stratégies. Puis ça, Simon, t'embarques cette année, t'embarques dans le pool trop fort pour la ligue. Puis on va se faire une petite ligue de fantasy entre nos podcasts. Puis,
je me suis engagé à faire le marathon canadien de ski de fond.
Oui, j'ai entendu ça tout à l'heure dans le.
Le fantasy de trop fort pour la ligue. Mais écoute,
t'es dans la catégorie enfant, je pense. Je me trompe pas, c'est ça? Ouais.
Est-ce que je suis en catégorie enfant aussi pour trop fort pour la ligue?
Je vois Simon à tasser à ce qu'ils te font. Là, tasser un petit bout de 6 ans là, pour améliorer son classement.
Il y a des chances que ce soit lui qui me demande de me tasser, là, mais ça, c'est un petit Right, hey, merci les boys, c'était super cool. Puis pendant la saison morte, on s'organisera un petit épisode là, pour on passera en revue tout ce que Attitude Football puis Trop Fort pour la Ligue vont avoir publié. Là, puis on va être prêt, on va se faire un petit football en saison morte dans quelques semaines.
Yes, sir.
Parfait. Right.
Merci les boys. Bonne soirée.
Salut.
Vraiment cool. Yes. J'aime ça parler de football. Bon, hey, on termine pas tout de suite parce que Vincent, le gars le plus patient sur la Terre, s'est reconnecté puis il est là avec moi. En fait, il a été connecté tout le long. Puis je vais l'amener en onde. Je sais pas, je te vois pas, Vincent. J'espère que tu es là. Je t'amène avec moi. Ça marche-tu? Oui, ça marche. Je te vois pas, mais je t'entends.
Ah, attends un petit peu, là. C'est... Tu m'entends?
On va-tu réussir? Oui, je t'entends super bien, mais je te super. Vois pas.
OK. Ah, oh, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible.
Ben écoute,
terrible,
on peut le faire terrible. Audio, puis si jamais ça pop, tant mieux, là. Mais au moins, on t'entend, puis c'est ça, je pense que c'est ça l'essentiel. Écoute, merci d'avoir été super patient, puis d'être resté, parce que ça me tenait vraiment à cœur de partager un petit peu ta chaîne YouTube. Tu étais venu nous parler de ton livre, puis c'était un livre super intéressant, mais là, ta chaîne YouTube, c'est vraiment quelque chose là de je sais pas si tu chérissais ça depuis longtemps. Moi, j'ai présenté ça comme de la vulgarisation, mais je vais te laisser la présenter avec tes propres mots pour pas mettre des mots dans ta bouche là.
Hey, je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas de caméra. Okay. C'est parce que mon ordinateur, là, il fait des free games. Là. C'est pathétique. OK. Je vais quand même prendre le temps que je suis ici. Je n'aurais pas attendu pour rien. Oui, c'est ça. C'est de la vulgarisation. En fait, ça vient du fait que moi, j'enseigne aux adultes, à des élèves qui souvent ont eu des parcours différents. Puis, normalement, les élèves, quand ils commencent à avoir de la difficulté à l'école, la première chose qu'on fait, c'est qu'on enlève toutes les autres matières, puis on laisse maths, français, anglais. Parce qu'on se dit, il faut au moins qu'ils passent ça. Puis souvent, les DEP, tu as besoin d'avoir juste ça pour faire ton DEP. Fait qu'il y a des élèves qui, depuis sixième année, là, qui rentrent dans ces programmes-là, ils font plus de sciences, font plus d'histoire, font plus de géo, font plus, tu sais, toutes les autres cours. Puis, ils ont un peu d'éducation physique et tout, mais quand ils arrivent au vallon, on dirait que ça leur manque un peu comme cruellement d'avoir justement bien des connaissances pour affronter l'actualité de la vie de tous les jours. Puis en même temps, avec la COVID, ben j'ai vu comme... Tu sais, j'ai vu que les gens étaient mélangés, les gens sont mêlés. Moi, je suis professeur de sciences, tu sais, puis j'essaie de me tenir au fait avec les articles qui sortent, puis je suis comme, OK, si moi, j'ai de la misère à me tenir au fait vraiment sur le spot, je m'imagine pas, mais mes élèves et d'autres personnes qui ça fait peut-être longtemps qu'ils sont pas à l'école, d'essayer de garder le tempo un peu. Mm-hmm. Fait que ça l'a donné l'idée de cette chaîne-là, en fait, qui était une chaîne dédiée un peu à qui veut bien l'écouter. Puis aussi, c'était à cette heure-là, en YouTube, Facebook et tout le kit. Écoute, une vidéo, là, il regardait en moyenne 5 secondes. Là. L'année prochaine, ça va être 4 secondes. Donc, ça va toujours de pire en pire. Toujours plus rapidement et tout. On veut toujours tout de suite, tout cuit dans le bec. On n'a plus d'attention. Fait que moi, ce que j'ai fait, en gros, c'est que j'utilise un tableau interactif pour faire la plupart de mes capsules. Puis en fait, je donne un cours. Je donne un cours de 15 minutes, puis dans ma tête, la façon que je le montre comme si je l'aurais montré à un de mes élèves, mettons, si tu veux. Fait que c'est comme ça que j'ai parti la chaîne. Puis après ça, ben j'ai incorporé des entrevues de plus en plus sur des longs concepts parce que je prétends pas avoir la vérité infuse, tout connaître et tout savoir, mais... C'est ça. Fait que c'est un peu l'idée de la chaîne. Puis jusqu'à date, j'ai eu quand même un relativement bon retentissement, considérant que c'est des vidéos de 15 minutes, tu sais, qui sont slow pace avec un montage bidon, avec le montage fait par le gars qui est même pas capable de mettre sa caméra aujourd'hui, tu sais.
Ben, c'est dynamique, tu sais, c'est ce que j'aime du fait, puis bon, je sais pas si je les ai tous regardés, là, parce que bon, à un moment donné, je m'y perds un peu, j'en regarde puis tout ça, là, mais j'en ai regardé quelques-uns, ça c'est certain, puis c'est ce qui me frappe, c'est que c'est dynamique, tu t'exprimes bien, c'est bien vulgarisé, tout le monde peut comprendre. Est-ce que tu choisis tes sujets pour des trucs qui t'intéressent toi ou tu te dis, je vais aller chercher quelque chose qui va intéresser, genre, tu sais, comme par exemple tes élèves, mettons, là, tu sais. Est-ce que tu choisis des trucs qui t'intéressent en premier lieu ou qui vont intéresser ton auditoire, autrement dit?
Ben, ça, c'est une très bonne question. En fait, je dirais que c'est un mix. Ça va être beaucoup un mix, mais c'est sûr que au départ, j'ai été touché au niveau un peu du complotisme ambiant qui arrivait. Puis c'est j'ai sur les médias sociaux, j'ai souvent arrivé pour dire hey, oublie pas ça. Ah non, écoute, ça me semble être une fausse nouvelle. Hein, on va aller checker ça. Fait que j'ai fait un peu de fact-check de citoyen, si on veut. Puis en quelque part, qu'une personne mette en contexte les choix du gouvernement ou des différents gouvernements. Écoute, je trouve ça sain et super important, puis j'ai toujours remis en contexte le gouvernement. J'étais un petit fucker de gauche, fait que évidemment que j'ai moi aussi, tu sais, je suis dans une situation qui a beaucoup critiqué, sauf que je pense que pour critiquer, il faut quand même arriver avec les bons chiffres, arriver avec les bonnes données, puis arriver... Exactement. Puis moi, un peu, je me suis fait souvent traiter de toutes sortes de noms, comme quasiment de gars qui travaillaient directement pour le gouvernement, tu sais, pour... Mais moi, j'ai jamais dit que j'étais pour les mesures que le gouvernement a mis. Ça, c'est juste le test de Rorschach, de la personne qui veut voir qu'est-ce qu'il veut. Sauf que les faits sont que, par exemple, ben si on compare l'influenza puis la COVID, ben il y a ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Fait que là, je peux sortir des faits, des articles, des trucs pour voir que c'est pas tout à fait pareil. Puis que des fois, il y a des recoupements qui sont un peu boiteux, tu sais, ici et là. Puis j'essaie juste qu'on essaye de s'entendre là-dessus pour que la discussion qu'on doit avoir puisse avoir lieu, mais pas n'importe comment, tu sais, c'est ça qui est un peu mon idée. Fait que la question, parce que là, j'ai fait un vrai politicien de moi-même, j'ai pas répondu à ta question. La question, c'était, est-ce que c'est moi qui choisis selon mes intérêts ou c'est en fonction de, bon, est-ce que les élèves demandent? Ben moi, je fais un mix des deux. Des fois, je pogne une affaire, puis je trouve ça incroyable. L'avantage avec mon montage bidon, puis c'est que ça peut être fait, mes outils nuls à chier, c'est que ça peut être fait très rapidement de mettre en ligne une vidéo. Donc, je peux pogner de quoi on the spot, puis faire comme, ah, oui, ça serait comme un bon vidéo. Puis là, après ça, j'y pense, puis là, ça peut sortir. L'avantage, c'est que je suis capable de faire entre 2 et 3 vidéos de 15 minutes par semaine. Puis là, j'ai beaucoup de rattrapage à faire avant d'être on track avec l'actualité parce que j'ai commencé ça en mi-cycle, tu sais, comme j'ai commencé ça en janvier. Puis, tu sais, c'est des choses qui me trottent en tête depuis mars. Fait que oui, il y a bien des choses que je voudrais dire. Mais j'ai laissé quand même la possibilité à des personnes de me poser des questions, que ce soit mes élèves ou pas, des gens qui sont inquiets sur quelque chose, qui me disent hey, qu'est-ce que tu sais, comment je pourrais me faire une tête là-dessus, as-tu des choses à me présenter? Puis ça me fait toujours plaisir de leur répondre à leurs questions. Puis du mieux que je peux, là, évidemment, là, ouais.
Est-ce que tu as des sujets qui s'en viennent, que tu as déjà en tête, là, que tu veux faire des vidéos là-dessus?
Ouais. Oui, vraiment. Je suis allé dans des sujets très sensibles. Il y en a une qui devrait sortir demain. Entre autres, le sujet de l'hydroxychloroquine qui est du docteur Raoul, qui était le remède qu'on disait miracle, et des études, le fait qu'il ait décidé de ne pas faire une étude à double aveugle, randomisée puis tout. Puis finalement, dans le fond, je veux essayer de montrer aux gens que c'est pas parce qu'une étude sort que ça veut nécessairement dire que là, bon, tout, on se garoche là-dessus. Fait que là, j'ai regardé l'étude, ça m'a amené à regarder plusieurs études, mais j'ai regardé la grosse étude qui est sortie de Cold Corona, qui est l'étude sur la colchicine qui a été faite, entre autres, au Québec, puis qui dit, écoute, au Québec et ailleurs dans le monde, mais l'idée par le gouvernement du Québec sur un genre de un genre de copycat de l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire un autre médicament générique que si on pouvait le commercialiser, tout le monde y gagnerait, les pharmaceutiques feraient pas d'argent. Mais l'affaire, c'est que ça disait que tu avais 44% de moins de mortalité. Fait que j'étais allé regarder les chiffres. Puis quand on regarde les chiffres, écoute, on parle de sur une cohorte de 2200 personnes qui ont pris le médicament, sans savoir si c'était le médicament ou le placebo. Il y a eu 5 morts, OK? Ça, c'est les doigts de ta main gauche ou droite, à ta convenance. Et dans les personnes qui ont pris un placebo...
J'en ai 5 d'un deux, ouais, c'est je ça.
Et dans les personnes qui ont pas pris le médicament, donc qui ont pris le placebo, ben il y a eu 9 morts. La différence entre les deux, c'est 4. C'est 44 %. Mais le 44 %, il frappe en esti l'imaginaire. Mais quand tu dis que sur 5000 personnes en tout et partout, il y a eu 14 morts. Il suffisait qu'il y en ait deux de plus dans le groupe de la colchicine, puis un de moins dans l'autre, puis on était juste à 12 % de différence. Fait qu'on voit que la variabilité statistique, là, c'est pour ça qu'une seule étude ne dit pas tout. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une étude pour savoir, en ligne, je vais prouver que la variabilité statistique, ça fait des choses. Je vais jouer à pile ou face 50 fois d'affilée avant de prendre un café. Et ensuite, je vais jouer à pile ou face 50 fois d'affilée après avoir pris un café. Puis je vais pouvoir prouver que le fait de boire du café change, en fait, le pronostic de gagner à pile ou face. Puis je te jure, là, je vais le faire live, là, parce que je te le dis d'avance, là, c'est 50-50 les chances d'avoir pile ou face, là. Mais sur un petit échantillon de 50 lancés, là, je te garantis qu'il y en a un, que je vais avoir 10 faces, 40 piles, puis dans l'autre, je vais peut-être avoir, puis qu'il y aura une majeure différence.
Parce que l'échantillon sera pas... est trop petit. Parce que
l'échantillon est trop petit. Fait que dans le fond, les gens, à ce moment-là, vont se dire, ouais, est-ce que je suis prêt à prendre du café pour améliorer mes chances d'avoir pile? En fait, on se rend compte que le hasard étant ce qu'il est, ben écoute, c'est ça. Fait que là, ça, c'est une petite étude in vivo que je vais essayer de faire. Puis sinon, ben écoute, là en ce moment, je suis beaucoup dans les longues entrevues. Avec une entrevue, 45 minutes, des fois 50 minutes, avec une personne qui a des idées très fortes sur un sujet. J'ai eu Coon de Winter qui a travaillé pour les industries, les grandes industries. Donc, souvent, les gens, ils pensent que les gens qui travaillent un peu là, dans les grosses compagnies, c'est du monde un peu glauque ou quelque chose dans le genre. Puis, dans le fond, Coon, lui, il avait des rencontres avec des PDG, des millionnaires, puis tout le kit. Fait que c'est une rencontre avec lui pour parler un peu de la réalité des industries. Et là, j'ai eu une rencontre avec Alexandre Deschênes, qui est communiste, sur le communisme. Et là, je m'attends à avoir une rencontre de 45 minutes. Là, mon poulain, c'est Maxime Huppé, qui est libertarien, qui est comme à extrême droite, pour qu'il explique, et mon but, c'est pas des piégés, c'est qu'il explique c'est quoi, là. Tu sais, c'est quoi qui les amène à penser ça. Fait des longues entrevues de fond pour essayer d'aller à fond dans un sujet. J'ai une autre entrevue qui s'en vient avec Klaus Sylvestre-Persiel qui va commenter les fins du monde parce qu'il a pris le temps de regarder les différentes fins du monde annoncées depuis 2000 ans. Puis on se rend compte qu'il n'y a pas eu 10 ans sans une fin du monde autoproclamée. C'est ça. Fait qu'il y avait aussi un retour sur... la vaccination aussi, quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est les gens, ils meurent après avoir pris le vaccin. Puis ça, c'est sûr. Ça, c'est officiel. Premièrement, parce que mourir...
On ne sait pas combien d'années ça va prendre, par exemple.
c'est ça. Mourir, c'est quelque chose qui est malheureux, mais qui va tous nous arriver. Mais deuxième chose, c'est que tu prends un vaccin, tu le donnes à des millions de personnes âgées, OK, qui ont, parce qu'on commence par les personnes âgées, mais des, tu sais, l'échantillon, c'est pas un peu, là, c'est des millions. Et là, tu te dis, écoute, 3 semaines après, il y a tant de millions de personnes, tant de mille personnes qui sont décédées du vaccin. Fait qu'on va regarder, on va faire des approximations, puis on va se poser la question, si le vaccin, c'était juste de l'eau puis du sel, il aurait tué combien de gens en fonction du nombre de personnes qui, techniquement, mathématiquement, aurait dû mourir ces semaines-là. T'sais, si tu avais pris une pilule de sucre, ça va tuer combien de gens? Ben, si je prends une pilule de sucre 5 mg, là, de même sirop d'érable pour être fancy, là, ben, je te garantis que demain, il y a quelqu'un qui meurt au Canada si tout le monde la prend en même temps. Fait qu'on va regarder un peu comment faire départager ça. Fait que c'est des petits sujets comme ça.
C'est super intéressant. J'aimerais ça, après avoir fait ta série de plus longues entrevues, que tu viennes m'en reparler un petit peu. Comment c'était quoi ton feeling de recevoir ces gens-là, puis vraiment de les écouter, approfondir leurs réflexions sur, tu sais, puis essayer de te convaincre, ben te convaincre pas au sens propre, là, mais tu sais, te convaincre au sens figuré un petit peu de pourquoi eux croient. Crois autant à tout ça, là, tu sais, à leur champ. Puis ça, ce serait cool que tu viennes m'en reparler un petit peu. C'était quoi ton feeling de passer ces gens-là en entrevue? Parce que t'es un gars qui est probablement excellent à passer le monde en entrevue, mais t'as aussi ta propre idée sur des sujets préconçus, là, ou des sujets que tu vas aborder. Fait que, tu sais, de te soustraire un peu de ton opinion, puis d'aller juste écouter quelqu'un. J'aimerais ça que tu me comptes un peu comment ça va s'être passé.
Ouais, ben j'ai été beaucoup récemment, j'ai fait un vidéo sur la matrice. OK? J'ai fait une analyse.
Le film, j'imagine.
Oui, le film.
Le film, OK.
Le film, oui. J'ai fait une analyse philosophique de la matrice. C'est sûr, j'étais allé m'inspirer, entre autres. Parce que, en fait, dans les milieux, entre autres, conspirationnistes, il y a beaucoup l'idée de la pilule rouge ou de la pilule bleue. Tu prends la pilule rouge puis tu acceptes de voir la vérité en face ou ben non, tu fais comme ton mouton et tu reviens. Fait que j'ai analysé les différents personnages de la matrice et tout, puis ça m'a amené à me faire dire que dans le fond, la matrice, on a chacun une matrice on a chacun nos agents Smith à l'intérieur de nous qui nous protège de l'extérieur, qui nous protège d'entendre des choses qu'on ne veut pas nécessairement entendre. Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le fait, ben, sur mes propres agents Smith, sur mes propres faits, que moi aussi, il y a des choses que j'ai pas tout le temps le goût d'entendre, puis qu'on revire un peu du revers de la main moite, comme le dirait Jean Perron, qu'on essaye de mettre ça un peu sur le balayage. Ah oui, ça c'est vrai, ça existe, ça. Mais ça sur le tapis, tu sais. Puis on a ces réflexes-là qui sont profondément humains. Fait que je me suis donné comme challenge d'aller justement à la chasse aux gens qui ont des idées, qui ont pensé. Puis moi, je me suis donné comme challenge d'arriver là sans jugement pour écouter ce qu'ils ont à dire puis à regarder. Fait qu'on va se challenger un avec l'autre. Toi, tu me challenges de revenir. Puis moi, je me challenge de mettre une caméra puis d'être capable de revenir la prochaine fois avec une image puis un rendu un peu meilleur que ce que j'ai fait ce soir.
Je pense que je vais t'inviter en studio.
Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah là, ça, je pourrais pas me tromper. Là. Malgré que j'ai l'air à porter malchance avec les caméras, je suis pas sûr que tu me veux dans un boot.
Hey, merci beaucoup, Vincent, de m'avoir parlé un petit peu de ta chaîne. J'encourage les gens. Explique comment qu'on peut la trouver, ta chaîne, sur YouTube.
En fait, moi, ma chaîne s'appelle la chaîne Le Prof de tout le monde. Donc, Le Prof de tout le monde. Après l'avoir mis en ligne, je me suis dit, oh, j'ai fait une couple de vidéos, puis je me rends compte que c'est crissement prétentieux comme nom. Mais je me suis dit, coudonc, il est comme trop tard pour changer. Là, je referai pas mes vidéos. Fait que c'est Le Prof de tout le monde. Et c'est la chaîne YouTube, tu fais t'abonner. Par ailleurs, quelque chose de à ce niveau-là, la vidéo qui a été la plus visionné, en fait, c'est une vidéo que j'ai faite. J'essaye différentes choses, puis je regarde qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Puis il y a eu Amélie Paul qui a fait une vidéo qui s'appelle Les nouvelles de la vérité brutale. Puis écoute, il y a un ramassis de choses là-dedans non fondées et comme. Puis là, il y a une amie que j'ai eue sur Facebook qui m'a dit hey, regarde ça, ça n'a pas d'allure. J'ai dit ça n'a pas de sens. Je l'ai débunké une chose après l'autre, tout ce qu'elle apportait. Puis j'ai fait une vidéo que j'ai marqué la vérité est brutale au lieu de les nouvelles de la vérité brutale. Puis au début, je dis que je viens des nouvelles de la vérité plate. Puis là, je regarde. Puis finalement, ce vidéo-là, il a été vu à quasiment 3000 vues.
Ah ouais? Nice.
Oui. Et par rapport aux autres qui ont vraiment, vraiment, vraiment pas autant de vues. Mais et les commentaires négatifs qu'il y a là-dessus, mon chum, mais en même temps, je me suis dit, ça m'a fait penser sur le fait que c'est pas la bonne approche. Tu sais, cette vidéo-là, ça marche pas. parce que ça rentre trop, c'est trop frontal, c'est trop agressif, ça marche pas. Fait que je le laisse là parce que quand même, je l'ai fait, puis il me ramène une couple d'abonnés. Fait que si vous trouvez pas le prof de tout le monde, marquez la vérité brutale, il va peut-être arriver plus haut dans l'algorithme. Vous allez pouvoir le regarder, m'envoyer un commentaire négatif comme les 60 autres personnes qui ont commenté. Puis ensuite, vous abonnerez si vous voulez voir des vidéos un peu plus calmes.
C'est bon, ça, j'aime ça. Écoute, merci beaucoup, Vincent. Faut que je te laisse parce que moi, j'ai un couvre-feu à respecter.
Oh, oui.
Faut que je me rende à Ripon. Fait que je te laisse. Aller,
OK, dépêche.
On se redonne rendez-vous, c'est sûr, puis on continue d'aller voir tes vidéos sur ta chaîne.
Je vais cotiser sur ton amende, OK? Salut, bye!
Merci, salut! Oh, nice, j'espère de ne pas empoigner une amende. D'ailleurs, si vous êtes policier, allez vers Papineauville. Venez pas vers Ripon. Non, je m'en vais, là. Je veux pas me faire pogner. Donc, merci à tous mes invités ce soir. Podcast, super intéressant. Envoyez-moi des commentaires si vous êtes à l'écoute, tout ça. Je vois pas nécessairement qui écoute présentement tout ça. Je vais le rediffuser, le podcast. Et puis, dites-moi si vous avez aimé le nouveau, la nouvelle plateforme, l'interface un peu, est-ce que ça gelait, est-ce que le son est bon, etc. Donc, j'attends vos commentaires là-dessus et puis on se reparle.